Le Point de Max.
Hey, salut! J'espère que vous allez bien. En fait, c'est un peu annoncé hein, que Max ne sera pas là aujourd'hui. Je sais pas trop ce que les gars vous ont dit, les raisons du pourquoi. C'est sûr que quand on entend ben, « Max est à l'hôpital », on panique tous un peu. On peut quand même faire en sorte de vous rassurer. Max va bien, OK? Max va bien. Il y a un petit inconfort au niveau du bas du corps, puis ça l'a inquiété avec raison. Donc, il a pris les dispositions, celles que vous devez et vous devriez toujours prendre. Soit si ça va pas, ne pas attendre, aller consulter. Là, clairement, ça allait pas bien. Donc, le Max Larouche qui est handicapé du bas du corps pour aujourd'hui. Après, on va voir demain. Mais chose certaine, on frappe en relève de ce petit bonhomme-là qui risque de revenir demain, mais on attend des nouvelles. Et je vous répète, il est correct. Ça va bien aller. Il va s'en remettre. Il a pris les dispositions. Mais tout va bien pour Max Larouche. Alors, on lui souhaite prompt rétablissement. Tiens, on va y aller comme ça. Oui, oui, Max, t'es à l'écoute. Tout va bien. Ta place est encore bien chaude. Ça se peut juste que t'es à animer debout demain parce que le bas du corps, c'est pas facile. Hein? Surtout quand ça va un peu entrer dans ta masculinité, là. On est de tout cœur avec toi, mais on sera pas tes gardes-malades. Sinon, moins 9 degrés à Québec, c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. C'est moi qui vous accompagne pour le Point de Max. Je m'appelle Pascal. Alors, on se retrouve pour 2 heures, bien sûr, comme à l'habitude. Il y aura l'Open Mic avec Audrey Pinchot et plusieurs invités. C'est le fun parce qu'on est une grande famille, donc on a décidé de faire ça ensemble, le Point de Max, aujourd'hui. Autant les auditeurs qui sont bien présents sur le Twitch, donc twitch.tv/BLVD/FM, ou encore, comme d'habitude, moi, j'aime ça vous lire tout au long d'une émission d'actualité au 88-971-1021. On peut converser ensemble, puis même si c'est pas toujours facile vous répondre rapidement quand on est seul derrière un micro, je lis tout. Alors, c'est la même recette que d'habitude, 88-971-1021, pour vous lire. Là, ça me fait rire parce que vous envoyez des supposées maladies que Max pourrait avoir contractées et expliquerait son absence. Donc, continuez de faire ça. Ça met de la couleur dans la journée, mais je vous rappelle, il est correct. Moins 6, c'est le maximum pour aujourd'hui avec alternance soleil-nuage. Ce soir et cette nuit, ça pourrait tomber à moins 18, donc on est encore en hiver, bien qu'on goûte à tes températures printanières. Hein? Moins 8 demain, jeudi moins 2, vendredi moins 2, samedi 4 degrés. On est dans quelque chose qui s'appelle le printemps à venir, donc la saison de l'érable aussi qui va s'ouvrir. Ça, c'est les bonnes nouvelles pour aujourd'hui. Sinon, on va recevoir, bien sûr, Victor Henriquez pour parler de la politique. Élection partielle qui a été remportée par le PQ hier. Trump aussi va prononcer son discours sur l'État ce soir. Des violences et une emprise importante du cartel El Macho du côté du Mexique. On va revenir avec ça. Toujours des Québécois qui sont coincés là-bas, mais au moins la situation s'améliore. Sinon, on va jaser du dossier fort intéressant qui est sorti dans le soleil aujourd'hui. C'est un dossier qui a été fait avec des clients mystères. C'était une enquête, en fait, provinciale qui a été menée par les COB de l'information. Et on a décidé d'aller voir où sont les prix élevés ou moins élevés, les places qui sont rares ou encore qui sont disponibles et les services variés dans les RPA. Je pense qu'il y a un élément qui, sans qu'on en discute à chaque jour à la machine à café, fait partie de notre quotidien. Et c'est qu'est-ce qui va nous arriver à notre retraite. Puis si c'est pas par rapport à nous, c'est qu'est-ce qui va arriver à nos parents lors de leur retraite. Alors, où est-ce qu'on les place? Quel budget on a? Est-ce qu'on est capable de leur donner des conditions telles que celles qu'ils nous ont données quand on était jeunes? T'sais, souvent, on veut les entourer d'amour puis d'un nid douillet. C'est pas toujours facile d'avoir une maison bigénérationnelle. Donc, les RPA, viennent souvent au secours de plusieurs familles. Mais avec des choses qu'on entend au courant des dernières années ou encore l'inquiétude qu'on peut avoir quand on n'a pas les deux pieds dans l'établissement, où est-ce qu'on trouve les meilleurs? Et c'est un dossier fort intéressant que je vous invite à aller consulter aujourd'hui. Il est séparé par toutes les régions du Québec et on voit les points forts, les points faibles, on en jasera. Sinon, André Laforêt, qui est président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, va être dans l'émission aujourd'hui parce qu'au moins 1000 employés d'école sont menacés d'un départ forcé. On parle encore du programme PEC, en fait, pour les gens qui ont immigré ici et qui avaient un emploi, mais cette fois-ci dans le système scolaire. On sait que la restauration est fortement touchée, mais il y a encore une fois des problématiques par rapport à ce programme-là où on renvoie des gens qui étaient venus ici qu'on avait courtisé, qu'on avait demandé, supplié, qu'on avait tout fait, en fait, pour les charmer et les amener ici au Québec pour travailler. Puis finalement, on leur dit, non, on n'a plus besoin de vous. Une fois que vous êtes ici, vous avez fait votre vie, vous avez une famille, probablement un cercle d'amis, un travail, vous êtes qualifié pour le faire. Ben, on a décidé qu'on faisait en sorte que ce n'était plus vraiment nécessaire de vous avoir à l'interne. Alors, on vous renvoie chez vous. Donc, j'ai dit André Laforêt, mais c'est André Bernier, pardonnez-moi. Donc, on va recevoir un peu plus tard à l'émission, puis on va jaser de ça avec lui, parce que c'est sûr que ça vous concerne si vous avez des enfants à l'école ou encore si vous travaillez dans des établissements scolaires. L'open mic, comme d'habitude, avec Audrey Pinchot, qui va s'amener. On reçoit un invité que vous aimez toujours et beaucoup. Alors, c'est un invité du domaine carcéral. Salutations à tous ceux qui ont dit bonjour au 88-971-1021. Mathias aussi va venir faire son tour parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a encore piqué Donald Trump et on l'a piqué à l'ego cette fois-ci dans le domaine sportif et pas à peu près. J'ai hâte de voir ce qui va en découler de tout cela parce que officiellement, ben Donald Trump n'aime pas se faire dire non, surtout s'il a la bonté de cœur, tiens, disons-le comme ça, d'inviter des athlètes du côté de la Maison-Blanche pour pouvoir les récompenser de leurs exploits. Donc, c'est encore une histoire qui va faire énormément jaser, mais l'équipe féminine a refusé l'invitation de Donald Trump dans les dernières heures. Et ça, on va en jaser avec Mathias. Je vous invite à rester sur les ondes de Boulevard 102.1. Dans quelques instants, c'est Victor Henriquez qui se joint à nous.
Le Point Max. Ce segment d'émission présenté par Orange Theory Fitness Lévis. Cardio, musculation et accompagnement pour vous aider à brûler des graisses et développer votre masse musculaire rapidement. OrangeTheory.com.
C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
C'est le Point de Max en Max Larouche. Alors, on vous le dit une dernière fois, il est à l'hôpital en ce moment. Vous pouvez lui envoyer prompt rétablissement autant de fois que vous voulez, avec beaucoup de blagues aussi, parce que Max est touché au bas du corps. Alors, c'est quelque chose qui sera éphémère comme douleur et il sera traité dans les prochaines heures. Mesdames et messieurs, il pourra peut-être revenir animé, mais debout demain, hein, parce que bas du corps exige un petit repos pour la suite des choses pour Max Larouche. Je m'appelle Pascal et je vous accompagne jusqu'à midi. Et pour ce faire, on va aller rejoindre notre expert en politique. Et oui, c'est notre analyste politique que vous connaissez, Victor Henriquez, qui est au bout du fil. Bonjour, Victor.
Salut, Pascal.
Merci d'avoir répondu à l'invitation ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, à discuter ensemble. D'abord, élection partielle hier du côté du Saguenay et c'est important de savoir que c'est le PQ qui a remporté. Château fort péquiste depuis des années, c'était passé aux mains de la CAQ. Hier, coup de théâtre, pas trop surprenant, mais une autre partielle remportée par le Parti québécois. Il s'agit d'une autre, oui, parce qu'on en parle depuis longtemps, mais je veux dire, le Parti québécois est en remontée depuis 2022, donc quatrième élection partielle gagnée après Jean Talon, Terrebonne et Arthabaska. Voici celle de Chicoutimi. Chicoutimi qui retourne du côté des mains de Paul Saint-Pierre Plamondon. T'as analysé quoi de ça? Est-ce qu'on est encore dans la même tangente, Victor, du fait que le PQ risque d'être le prochain parti élu au Québec?
On est encore dans la tangente parce que les Québécois ont envie de faire confiance au Parti québécois. Et clairement, on pourra dire que durant ce deuxième mandat de la CAQ, le Parti québécois a été celui qui a le plus eu la confiance des Québécois. Que ce soit dans les sondages ou que ce soit dans les partiels, les Québécois se sont exprimés pour un retour du Parti québécois sur le devant de la scène. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils seront capables de capitaliser pour transformer ces victoires en partiel dans une victoire en général? Est-ce que ce sera une victoire majoritaire ou une victoire minoritaire? Il y a plein de questions qui se posent à ce moment-ci parce qu'on regarde aussi que les chiffres ont beaucoup bougé hein, du côté de Chicoutimi. Donc, la CAQ a perdu énormément de points. Le Parti québécois a une belle victoire, mais une victoire peut-être un peu moins forte que celle à Arthabaska. Là-dessus, est-ce qu'il y a une perte de vitesse? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais ça reste qu'avec le résultat notamment des conservateurs qui ont fini deuxième hier, les dés sont jetés. On serait très dur aujourd'hui de deviner l'issue de la prochaine élection basée sur le résultat d'hier parce qu'il y a encore énormément de choses qui vont se passer, notamment le fait que deux partis n'avaient pas de chef pendant cette partielle-là, ou peu de chefs, puisque la CAQ est en élection de sa chefferie, et du côté des libéraux, le chef vient d'arriver en poste.
Je ne veux pas être prophète de malheur, mais quand même, ce sont des partis qui ne réussissent pas à s'afficher avec une grande, ferveur en ce moment. C'est pas tout le monde qui trippe sur la CAQ ou trippe sur les libéraux. Il y a tellement de scandales associés à ces partis-là en ce moment, revirement de situation, même la course à la chefferie, à la CAQ, c'est particulier. As-tu souvent vu, toi, une course à la chefferie où on se coltaille autant, qu'on se pique autant, de façon même personnelle?
Oui, quand même. Je te dirais que c'est malheureusement, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il y a un grand risque dans les courses à la chefferie, hein, parce que lorsqu'on décide de se coltailler entre collègues, on voit les différences philosophiques profondes qui vont ressortir. Et encore plus dans une coalition comme la coalition Venir Québec. Il faut quand même se rappeler que c'est un parti qui a été construit par des gens qui pensaient pas nécessairement comme de la même façon, qui n'avaient pas les mêmes bases politiques et qui se sont réunis dans le but de créer un gouvernement pragmatique. C'est ça qu'on nous vendait à la coalition Venir Québec. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec le départ de François Legault, il y a différentes factions qui sont existantes à la CAQ et les attaques deviennent plus dures. Moi, je me rappelle, entre autres, la campagne à la chefferie où Stéphane Dion avait remporté la campagne chez les libéraux fédéraux. Ça avait été une campagne assez dure également. Donc, oui, ça arrive. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Parce que c'est ça qui est très compliqué pour la personne qui l'emporte. C'est qu'après ça, il faut rallier les forces pour rallier le plus de monde possible. Et dans ce cas-ci, la question qui va se poser, c'est est-ce que M. Drainville, par exemple, resterait en poste si Mme Fréchette était élue? Avoir le discours qu'il a envers elle, je suis pas sûr qu'il resterait là. Alors ça va faire partie des éléments les plus importants. Et même chose pour Mme Fréchette. Est-ce qu'elle resterait si M. Drainville était élu? Et de la façon qu'il l'a traité, là encore, je suis pas sûr que je resterais à sa place.
Ouais, dans les deux camps, ce serait dur pour du moins les électeurs de se dire « Oh oui, ils sont capables de se rallier l'un derrière l'autre » et de croire en leur leadership respectif pour la suite. Bon, j'ai fait une petite parenthèse en parlant de la CAQ, mais si je reviens à l'élection partielle qui a été remportée hier par le PQ, ma dernière question sur le sujet, ce serait, bon, effectivement, le PQ a remporté. Encore là, ce n'est pas à l'unanimité. Et ce qui a été surprenant, tu l'as dit, ce sont les conservateurs d'Éric Duhaime. Éric Duhaime qui s'est montré très heureux, voire surpris même, j'oserais le dire dans mon analyse, de trouver sa candidate en deuxième position au scrutin du côté de Chicoutimi. Et ce, loin devant François Legault. Tu vois ça comment? Tu l'analyses comment?
Il y a une véritable opportunité pour Éric Duhaime, et c'est ce qu'on a vu dans les deux dernières partielles, que ce soit Arthabaska ou que ce soit Chicoutimi. Il est, en l'absence des deux autres partis, il est l'alternative crédible. Et il commence à devenir une alternative de plus en plus crédible, notamment auprès des francophones. Des francophones qui, par exemple, sont très déçus de la coalition Unir Québec, qui n'ont pas envie de retourner chez les libéraux, qui se cherchent un endroit où est-ce qu'ils vont éviter un référendum. Parce que un des grands éléments qu'il faut ramener, c'est qu'Éric Duhaime, dans les derniers mois, s'est positionné comme le grand défenseur d'un Québec sans référendum. Celui qui permet aux Québécois d'éviter un référendum tout en ayant un changement des vieux partis. Et ça, c'est une posture qui l'a bien servi dans ces deux dernières partielles. Maintenant, il y aura des nouveaux chefs à la CAQ et au PLQ, et on verra à ce moment-là si l'humeur des Québécois et l'appui des Québécois restent le même à long terme d'ici l'élection pour le Parti conservateur. Parce qu'on a clairement l'impression que c'est un vase communicant entre des fédéralistes ou des non-souverainistes, des nationalistes non-souverainistes qui vont chez les conservateurs en l'absence de leadership, que ce soit chez les libéraux ou à la CAQ. Est-ce qu'ils resteront là ou est-ce qu'ils retourneront dans des partis plus traditionnels d'ici l'élection? C'est ça la grande question. Parce que hier, on a entendu quelque chose de la part de Paul Saint-Pierre-Plamondon. Est-ce que c'est une ouverture? Je ne sais pas. D'ailleurs, ce matin, il a réitéré qu'il voulait faire un référendum. Mais hier, il a dit une phrase importante. Il a dit « on va user de jugement ». En parlant de cette peur-là et du fait qu'il est conscient que les gens sur le terrain lui disent qu'ils ont des craintes par rapport à la tenue d'un référendum dans le contexte actuel. Mm-hmm. Comment cette position-là va évoluer va énormément déterminer le résultat de la prochaine élection et la capacité ou non des autres partis à se relever. Parce qu'on va se le dire, Pascal, à ce moment-ci, l'élément sur lequel il est plus facile d'attaquer le Parti québécois, c'est la question référendaire. Sur les autres aspects, c'est très difficile de les attaquer parce qu'ils ont des positions extrêmement intelligentes, bien positionnées, bien expliquées. Notamment, par exemple, je pense aux questions de l'immigration, malgré le fait qu'ils ont des positions qui sont assez identitaires sur cette question-là. Il les défend très bien, Paul Saint-Pierre-Plamondon. Donc, la question du référendum, c'est là où le bât blesse le plus et c'est là où le PQ a le potentiel d'échapper cette élection, notamment. Est-ce qu'ils vont réévaluer cette promesse-là? À ce moment-ci, on nous dit que non. Mais tu le sais, Pascal, 6 mois en politique, c'est une éternité. Peut-être qu'à la prochaine élection, Paul Saint-Pierre-Plamondon aura décidé autrement. On verra.
Et que c'est prenant quand même ce qui se passe en politique, surtout au provincial en ce moment. Après le municipal, finalement, on a été pris d'assaut par des revirements de situation. Pas toujours, je pense, à la fine pointe de ce que la politique devrait nous offrir, mais il y a quand même quelque chose d'effervescent en ce moment. Il y a un changement de paradigme qui se voit, c'est sûr. Victor Henriquez, tu es analyste politique. Je voulais quand même, en ce moment, parler avec toi de ce qui se passe aux États-Unis, parce que oui, on le sait. Alors, on a fêté la fin de la collecte des tarifs qui était invalidée par la Cour suprême récemment, mais Trump s'est reviré et en étant Trump, il a imposé une nouvelle taxe, une surtaxe même de 10 % et elle est effective dès aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une grande journée aussi parce qu'il va prononcer son discours sur l'état de l'Union ce soir.
Exactement. Et ça va nous donner des indications sur comment Donald Trump vit sa crisette post-décision de la Cour suprême. Tu parlais de 10 %. Rappelons-nous que quelques heures après, il a monté ça à 15 %, parce que d'après moi, il a passé une mauvaise nuit. Ici, là, on est dans la crisette de l'enfant de 2 ans qui a décidé qu'il n'aimait pas la façon que la Cour suprême l'avait remis à sa place. Je suis désolé de le dire comme ça. Puis, tu sais, Pascal, tu sais le grand respect que j'ai pour les gens qui choisissent la politique. Mais dans ce cas-ci, c'est de plus en plus difficile de respecter la position du président américain qui a décidé de jouer avec les institutions, qui se fait dire par la principale institution au pays que la décision qu'il a prise est illégale et qui décide, dans le fond, de faire une crisette puis de l'imposer d'une autre façon. Parce que oui, il a le levier, par exemple, pour imposer des tarifs pour une durée de 150 jours. C'est ce qu'il va faire. Le discours à l'Union va nous permettre de savoir, est-ce que Donald Trump décide d'aller à l'attaque complètement en vue des élections de mi-mandat, ou est-ce que Donald Trump va chercher à convaincre un peu plus, puis à rallier un peu plus de gens, parce que ces élections de mi-mandat lui font peur d'une certaine façon. Moi, j'opte plus pour la première option. Je regarde les dernières heures, les derniers jours, la façon qu'il a réagi. Je m'attends à ce qu'il soit d'attaque. Je m'attends à ce que ce soit le fameux « nous contre vous », ceux qui veulent rendre l'Amérique plus grande versus ceux qui veulent la rapetisser. Et il reste sur cette rhétorique-là, en se disant d'abord, rappelons-nous que de toute façon, en principe, il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc là-dessus, il n'a rien à perdre. Et également sur le fait que sa base militante est probablement plus forte que ce qu'il peut aller rallier au centre en vue de ses élections de mi-mandat. C'est ce qu'il nous a démontré lors de la dernière élection, qui, rappelons-le, il l'a remporté de façon très claire. Alors, je m'attends à ce qu'il reste sur ses positions, mais ce ne sera pas le fun pour le restant de la planète, parce que lorsqu'un politicien prend des décisions seulement sur la base de l'émotivité et qu'elle le fait en se foutant un peu de toutes les lois internationales, de toutes les règles de commerce et de même ses lois internes au pays, ben, ça devient très dangereux parce qu'on parle ici quasiment d'un dictateur élu démocratiquement. Puis je sais que certaines personnes me diront que le mot est fort, mais je cherche un mot pour décrire un élu qui fait à peu près ce qu'il veut en pensant que tous les pouvoirs lui appartiennent. J'en ai pas encore trouvé d'autre, Pascal.
Victor, je vais terminer avec toi cette chronique-là, cette analyse politique-là sur ce qui se passe au Mexique. On s'entend, ce sont des violences, une emprise du cartel del Macho après qu'on ait assassiné la tête même de ce regroupement criminel-là, qui est presque aussi, sinon plus équipé même que l'armée mexicaine et qui est organisée de main de maître. On s'attend à avoir peut-être une différence au niveau de l'attention aujourd'hui et dans les prochains jours si on compare à ce qu'on a vécu dimanche dernier. Les vols reprennent également. On va aller chercher nos Canadiens, nos Québécois qui sont en terre mexicaine. Mais c'est loin d'être terminé au Mexique en ce qui a trait aux violences et qui aura le pouvoir du peuple et des rues.
Tout à fait. Et les gens vont se dire, comment ça se fait que l'analyste politique parle du Mexique ou est-ce qu'on parle de violence? La raison est assez simple, c'est que c'est extrêmement politique, cette situation au Mexique. Parce que la réalité, c'est que lorsqu'on regarde la situation économique du Mexique ou lorsqu'on regarde la question de la sécurité, les cartels sont devenus un État dans l'État. La force des cartels est absolument phénoménale. D'ailleurs, elle se compare un peu à la force des guérillas qu'on voyait au Colombie dans les années 90 et début 2000. Qui étaient eux aussi un État dans l'État, qui venaient justement fragiliser la force de leur gouvernement. C'est un peu la même chose qu'on voit ici au Mexique. Et la rébellion s'est passée suite à l'exécution de ce chef de cartel qu'on décrivait comme le nouveau leader des cartels mexicains. Mm-hmm. Ce fameux El Mencho qui, dans le fond, a été exécuté dans une opération militaire dans laquelle, il faut le rappeler, il y a eu plus de 30 forces de l'ordre qui ont été également blessés ou tués du côté des forces de l'ordre. Donc, un affrontement très violent. Oui, ces cartels sont très armés. Ces cartels sont extrêmement riches. Ces cartels contrôlent des villages, des villes au complet. Alors, ces cartels sont la principale opposition au gouvernement au Mexique actuellement. Et c'est vraiment ça qu'on voit. Cette montée de la violence, c'est un message que les cartels faisaient passer en rappelant à la population qu'ils sont encore ceux qui contrôlent, qu'ils ont le contrôle sur leur quiétude d'une certaine façon. Et on montrait au gouvernement la force qu'ils ont. On a vu que Puerto Vallarta était à feu et à sang pendant 24 heures. Dans d'autres États également, ça s'est répercuté. Et c'est quand même assez inquiétant à long terme, mais il faut se dire, hein, la force des cartels aujourd'hui, elle est présente partout au Mexique. Moi, j'habite au Mexique pendant quelques années, Pascal, dans un magnifique village appelé Guanajuato. À l'époque, très calme et très paisible. Et aujourd'hui, ce village est contrôlé par les cartels à 100%. Et pourtant, on parle d'un village au milieu des montagnes. Alors, c'est vraiment le pays au complet qui a été envahi. Et ça rend le travail de la présidente extrêmement dur. Aussi, rappelons que la présidente est un peu à la merci de Donald Trump, qui a demandé depuis longtemps à la présidente d'agir de façon plus claire contre les cartels, qui a menacé d'une intervention militaire américaine au Mexique pour aller justement anéantir ces cartels, et qui a félicité la présidente pour son intervention qui a mené à l'exécution de El Mencho. Donc, il y a aussi cette question de politique internationale où est-ce que la pression est forte sur la présidence mexicaine pour qu'elle soit dure contre les cartels. La question, c'est, a-t-elle les moyens de rester dure contre les cartels? Je n'ai pas la réponse, et je pense que les Mexicains se posent cette question-là parce que ils le voient bien que leur pays, aujourd'hui, n'est plus 100% sous le contrôle des gens qu'ils élisent.
Ah, puis même avant cette crise-là, Victor, il y a 2 ans environ, je voyageais à Baja California, qui est dans le sud, en fait, du Mexique, et c'était un des endroits où on commençait à avoir de plus en plus d'investissements étrangers, donc des Américains, même des Québécois, des Canadiens, qui achetaient des lopins de terre pour y construire des établissements dans lesquels ils feront du Airbnb ou peu importe. Et beaucoup de villageois des autres villages ou encore des autres villes commençaient à venir habiter à Baja California parce qu'ils disaient que c'est le seul endroit où ils n'étaient pas constamment dérangés en se faisant poser la question « Est-ce que tu embarques dans la criminalité ou pas? » Puis il y a un habitant, un chauffeur de taxi qui m'avait dit, légitime en passant, qui m'avait dit « Ça a été extrêmement complexe pour moi de prendre la bonne décision, mais je l'ai prise pour ma famille parce que je sais qu'au moment où je dis oui, ma vie normale se termine. On est constamment dans l'insécurité. On est constamment en train de se faire braquer des armes dessus. La vie est tout autre et j'essaie de fuir ça le plus possible, même si ce serait économiquement la façon la plus viable de mener ma famille, avoir plus de ressources et donc d'être plus riche et d'avoir plus de vivre, etc., aller à l'école. C'est particulier, là.
Tout à fait. Puis c'est un système, mais on se rappelle, hein, les gens qui ont vu, par exemple, les séries sur Pablo Escobar, comment Pablo Escobar avait justement le contrôle de la ville de Medellín grâce à cette façon de fonctionner-là. Parce que, oui, on essaye aussi d'enrichir les gens les plus pauvres. Hein. C'est qu'on prend les gens les plus vulnérables, ils sont vulnérables, justement, et on leur donne une fausse richesse basée sur la criminalité, mais qui leur permet souvent de faire vivre leur famille, de nourrir leur famille. Donc, il faut faire... Tu sais, c'est un contexte extrêmement particulier. Là, je te dirais que ce qu'on voit, c'est que là, ce qui était, par exemple, à une certaine époque, isolé plus dans le secteur de Sinaloa ou dans le nord, à la frontière avec les États-Unis, aujourd'hui est partout au Mexique. Il n'y a plus d'État qui est exempté de cette violence-là. Et oui, pour les touristes, c'est aussi une inquiétude parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont pris à Puerto Vallarta en ce moment. D'ailleurs, on les salue, très inquiets de ce qui se passe. Les Québécois vont régulièrement à Cancun. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche. Il y aura beaucoup de Québécois qui voyageront là-bas. Mm-hmm. Prudence à l'extérieur des resorts, par exemple, des hôtels. Prudence dans vos promenades. Je pense qu'il faut juste rester attentif au fait que c'est un pays où est-ce que la situation est instable, où est-ce que la sécurité n'est pas aussi assurée qu'elle l'est dans nos rues à nous.
Victor Henriquez, analyste politique et associé principal chez Public Stratégie et Conseil. Merci énormément d'avoir jasé avec nous dans le Point de Max aujourd'hui à Boulevard 102.1.
Bonne journée, Marc.
On se reparle prochainement. Et aussi ironique soit-il, dans mon dernier voyage, j'étais à l'autre bout du monde, en Australie. Et il y avait une Mexicaine qui était venue travailler en Australie depuis peut-être 6 mois, 8 mois. Et la question que je lui ai posée, c'est est-ce encore sécuritaire pour un touriste d'aller voyager au Mexique? Et pour elle, c'était sans contredit encore très sécuritaire pour un touriste. Juste à faire attention parfois de ne pas commencer à démontrer une richesse quelconque dans les rues ou quoi que ce soit. Mais elle était convaincue. Quelques jours plus tard, ceci arrive et cette fois-ci, ce sont les touristes qui sont pris d'assaut, les rues qui sont pris d'assaut et tous les commerces qui font vivre au final avec les besoins principaux d'une vie, nourriture, de l'eau, etc., la santé, les transports en commun qui sont pris d'assaut par les groupes criminels. C'est fou, hein? T'as l'opinion de quelqu'un qui y vit, qui a peut-être pas le même ratio de possibilité d'encaissement, hein, de la peur, de la crainte ou de la violence, de la criminalité. Ça dépend où tu vis, ça dépend qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vécu. Et nous, on peut se dire très chanceux et très heureux d'être ici à Québec. Ça, on a le tramway, on a les chicanes, on a les réfifis, on a parfois de la politique assez décourageante, mais au moins, on est somme toute assez en sécurité. Vous êtes dans le Point de Max à Boulevard 102. On revient dans un instant. 10h38, bienvenue à ceux qui se joignent à nous à Boulevard 101 dans le Point de Max. Vous entendez la voix de Pascal parce que Max est absent aujourd'hui. Il devrait revenir demain, notre cher Max. D'après moi, vous avez plus d'infos qu'il vous en fallait sur son absence. Là, Max va tester le système hospitalier aujourd'hui. C'était en fait une demande des patrons. Là. C'est un genre de journalisme d'enquête, je pense qu'ils en vont faire. On fait des farces, mais Max est blessé au bas du corps, alors on verra pour la suite. Mais il va très bien, il va se rétablir et il sera avec vous prochainement. Et aujourd'hui, en nouvelle, c'est un triste anniversaire. C'est 4 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, 4 ans que Vladimir Poutine a envahi le pays de Volodymyr Zelensky. Et parlant de Zelensky, il presse aujourd'hui l'Union européenne pour fixer une date pour l'adhésion de son pays au regroupement, qui est l'Union européenne. Il en a fait une vidéo et dans cette vidéo-là, il affirme qu'il est important pour eux d'avoir une date claire pour leur accession à l'Union européenne parce que, selon lui, Vladimir Poutine va trouver le moyen de bloquer l'adhésion de l'Ukraine pour des décennies en divisant tout ce qui est l'Europe. Dans les dernières minutes, on apprenait qu'Ottawa augmente son aide militaire à l'Ukraine 4 ans après l'invasion. Alors, c'est Radio-Canada qui vient de sortir la nouvelle. Le gouvernement de Mark Carney qui annonce qu'on va bonifier l'aide militaire pour 2 milliards en 2026 et 2027. Alors, c'est le montant que ça va atteindre. Le gouvernement canadien va également faire don de plus de 400 véhicules blindés aux forces ukrainiennes, 66 blindés légers de General Dynamics et 383 véhicules blindés Senator qui a été construit par Rochelle. C'est ce qu'on apprend dans un communiqué. Et on annonce du même coup une prolongation, comme je vous disais, de 3 ans, mais cette fois-ci pour la mission d'entraînement des soldats ukrainiens. C'était une mission qui était débutée même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et bon, c'est sûr que ça s'est statué et c'est resté dans la mission de l'armée canadienne depuis cette invasion-là. La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, je vous rappelle, a annoncé pour sa part un versement de 20 millions de dollars supplémentaires au Fonds de soutien à l'énergie en Ukraine. Ça, c'est pour les installations énergétiques qui sont régulièrement visées par des bombardements russes. Assurément, on peut y voir là-dedans une affaire économique et de partenariat. Et je vous rappelle que Trump va prononcer son discours sur l'état de l'Union ce soir, journée où ces nouvelles surtaxes de 10 à 15 % sont imposées après la fin de la collecte des tarifs qui avait été invalidée par la Cour suprême. Il s'est élevé en disant « Non, c'est pas validé par la Cour suprême, mais il n'y a pas de problème. J'en ajoute et ça en sera de nouveau. » Élection partielle remportée hier par le Parti québécois du côté de Chicoutimi. Vous êtes au courant, on vient d'en parler avec Victor Henriquez, analyste politique. Pour le tramway de Québec, on apprend qu'il y a un litige qui pourrait coûter 50 millions de dollars. On en rejasera. Les vols aussi pour 3 compagnies aériennes canadiennes reprennent vers Puerto Vallarta aujourd'hui, alors pour Air Canada, Air Transat et WestJet. Je vous en parlerai un peu plus ce midi. Et des petites technicalité, mais quand même, sachez que vous pouvez vérifier si jamais. Et je voulais vous parler, avant de passer à notre prochain invité, d'un dossier fort intéressant que la Coop de l'information a sorti et dans le soleil, vous pouvez le lire. Et je posais des questions sur Twitch aux auditeurs pendant le bloc publicitaire, à savoir qu'est-ce que vous souhaitez pour vos vieux jours? Vous voulez vieillir en CHSLD, en RPA, à la maison, en maison bigénérationnelle? OK pour vous, mais aussi pour vos parents. Qu'est-ce que vous pouvez leur offrir? Qu'est-ce qu'ils peuvent s'offrir? Parce que c'est bien beau vouloir, puis j'ai l'impression que, comme plusieurs sondages le démontrent, la majorité des gens ici, dans la boîte, au volant, au travail, ceux qui écoutent Boulevard 102.1, aimeraient bien vieillir à la maison si la santé le permet. Mais ça coûte cher, puis des fois, il faut des services de santé à la maison. On essaie de rendre ça accessible, mais on est bien en retard là-dessus. Et dans le dossier mystère, qui est vraiment intéressant dans le soleil, ça a été des clients qui se sont, mais c'est pas des vrais, hein, c'est des clients mystères, donc des journalistes qui se sont promenés partout dans la province, dans différents secteurs et qui ont comparé les prix, les places, le nombre de places, les services aussi qu'on offrait dans les RPA et comment bien magasiner votre résidence pour personnes âgées. Pour la capitale nationale, c'est là-dessus que je vais faire un clin d'œil et que je vais m'attarder dans la prochaine minute. On dit que c'est un choix qui est complexe ici parce que les coûts, la disponibilité et la vigilance, c'est là où c'est un casse-tête. Donc, la hausse des coûts, la rareté des places, ça complique beaucoup la recherche pour plusieurs familles. On a effectué des visites, des appels au cours des derniers mois avec les journalistes du Soleil. On a passé incognito dans plusieurs résidences pour aînés de la région de Québec. Puis l'exercice a démontré qu'il y avait vraiment un magasinage qui s'imposait pour choisir une résidence privée pour aînés dans la région. Magasinage qui, des fois, va vous obliger finalement à prendre une place qui est disponible, même si ce n'était pas votre choix, parce que c'est bien complexe. On a pu visiter aussi les salles à manger, des appartements, les espaces communs. Les questions sont mal reçues. Ça, c'est fort intéressant. Donc, vous vous intéressez au confort, vous intéressez à ce qu'on offre. Puis on est un peu étonné que vous posiez des questions. Tellement qu'on a dit, du côté d'une résidence, d'un groupe de résidence, cette phrase. « Je suis étonné de vos questions. C'est un questionnaire où votre maman a un besoin particulier. » C'est fou, hein? Là, on parle de choix faits pour des gens qu'on aime. C'est émotif. Et on devrait se dire, bien, plus vous posez de questions, plus on a affaire à des clients qui vont vouloir être dans la vie de leurs parents ou prendre ça à cœur et qui vont être d'une aide quelconque où on doit comprendre normalement ce sujet émotif-là. C'est pas quelque chose qui était sensiblement compris. On a 127 RPA ici dans la capitale nationale. Le nombre d'unités, c'est 16 560. Le prix moyen pour un 3,5, 2 728 $. C'est bien plus que bien des loyers, des 3,5 que beaucoup de personnes ont du mal à se payer ici à Québec. Pensez-y, c'est sûr qu'il y a des soins, c'est sûr qu'il y a de la vigilance et tout ça. Mais quand même, c'est toute une facture, surtout avec l'âge, la perte progressive d'autonomie, des besoins qui augmentent et l'économie de ces gens-là qui est clairement amputée depuis plusieurs années. Des gens qui, avant même d'aller en RPA, voudraient retourner sur le marché du travail, mais au niveau de la fiscalité, c'est loin d'être facile, on les coupe et tout ça, et que ça aurait pu être des sous, premièrement, pour nos industries ici, de la main-d'œuvre, mais également une possibilité de s'offrir peut-être une meilleure fin de vie. C'est vraiment fascinant. Puis on compare ça là, à Québec et les autres villes dans la province. Donc, super intéressant. On en reparlera peut-être ce midi. Mais je vous le dis, allez jeter un coup d'œil à tout cela. On reçoit en studio quelqu'un avec qui j'ai bien hâte de parler dans les prochaines minutes. Restez avec nous, André Bernier, qui est président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, parce que le programme PEC fait souffrir bien des gens. Assurément, les gens immigrés ici, dans la capitale nationale et au Québec, après avoir été courtisés, charmés, presque tordus un bras pour les amener puis leur dire qu'on a tellement besoin d'eux et qu'ensuite, on souhaite les renvoyer dans leur pays d'origine. Mais c'est au moins 1000 employés d'école qui sont menacés d'un départ forcé. C'est pour ça qu'on parle à André Bernier qui va parler de tout ce qui se déroule en ce moment dans nos établissements scolaires et surtout ce à quoi on peut faire face dans les prochains mois. Restez là au Point de Max à Boulevard 102.1.
Max, tout à l'heure.
Boulevard. 102.1.
Vous êtes de retour dans le Point de Max. C'est moins 6 degrés comme maximum aujourd'hui. Ça monte tranquillement pas vite. On a commencé l'émission à 10 heures à moins 9. On est à moins 8. Alors, faut pas se décourager, mais encore là, ce sont de belles journées assez printanières qu'on a sur Québec depuis quelques jours. Très contente de le recevoir. Il s'appelle André Bernier. Il est président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Souvent disponible pour nous. Et ça, je dois le souligner. C'est intéressant parce que c'est pas toujours facile de parler à ceux qui travaillent en éducation. Donc, quand quelqu'un est prêt, se déplace même en personne, vous pouvez venir voir sur Twitch, pour venir jaser avec nous, c'est fort apprécié. Parfois, c'est des sujets un petit peu plus complexes qui les mettent pas nécessairement dans de beaux contextes. Mais cette fois-ci, c'est parce qu'il y a des départs forcés qui risquent de chambouler le milieu de l'éducation. Au moins 1000 employés d'école qui sont menacés de quitter. Et c'est en rapport avec le programme PEC qui se voit terminé. Et ce programme-là, bien, ce sont des personnes qui ont immigré ici, qui ont trouvé loyer, amis, travail et qui sont renvoyés chez eux. Bonjour, M. Bernier.
Bon matin.
Merci d'accepter l'invitation. D'abord, je pense que vous êtes un peu dans l'urgence de témoigner ce que vous vivez. Là. C'est d'abord pour ça que vous avez choisi de venir jaser dans les médias aujourd'hui, je crois.
Bien, effectivement, là, on se retrouve avec une problématique qui n'est pas issue de notre système là, de l'éducation. Donc, ça vient de la problématique là, de la nouvelle règle là, qui va s'appliquer. Et ça nous fait perdre un nombre de personnes très, très important. Et on a déjà de la misère à trouver des gens. On se pose la question là, très fortement, comment on va faire là, pour combler tous ces postes-là, alors que des personnes légalement qualifiées, on n'en a déjà pas assez.
Là, on parle d'enseignants. Est-ce que ces 1000 personnes-là que je nommais qui risquent de perdre leur emploi parce qu'il y aura départ forcé, est-ce que ce sont des enseignants aussi?
Pas uniquement les enseignants. La proportion est d'environ 70 % de personnel de soutien, ce qui veut dire les services de garde, les TES, les préposés aux élèves handicapés, professionnels un petit peu aussi.
Ce qui est essentiel, on s'entend quand même entre les murs d'une école. Là.
Tout à fait. Et le reste, le 30 % là, c'est du côté des enseignants. Donc, les dégalements qualifiés, on cherche de ce côté-là. Mais il nous manque aussi de personnel en service de garde, aussi de personnel TES. On n'en aura pas plus, là. Donc, ces gens-là, vous le disiez, il y en a qui sont là depuis 4 ans, là. Ils sont habitués de travailler avec nous. Ils connaissent les écoles, le fonctionnement. Puis, il y en a qui sont légalement qualifiés en plus de tout ça. Ils
connaissent les jeunes aussi, les oui. enseignants. Ça, c'est toujours important dans un écosystème.
C'est une dynamique qui est hyper importante. Et là, on va se retrouver à devoir accueillir de nouvelles personnes. Pas qu'on ne veut pas le faire, mais on va se retrouver assurément avec beaucoup plus de personnes non légalement qualifiées, peu importe là, le poste, là. Il faut les accompagner, ces gens-là. Il faut qu'ils apprennent à voir comment fonctionne le système d'éducation, comment on enseigne, comment on intervient auprès des jeunes. C'est toute qu'une surtâche pour ces personnes-là, mais pour nous aussi comme direction.
Puis... Est-ce qu'elle est disponible, cette main-d'œuvre-là, même si elle est non légalement qualifiée? Il me semble que ce qu'on entendait, ce qu'on connaissait de la situation, c'est que même ça, c'était difficile à trouver, des gens non légalement qualifiés.
Bien, c'est exactement ce que j'allais dire, là. Même si on veut, là, on ne l'aura pas, ce monde-là.
Ils va sont arriver pas... quoi?
Bien, c'est là toute la question qu'on se pose. Là. Puis on est à minuit moins une là, actuellement. Là. On arrive là, en mars. Nous, là, fin mars, on est déjà dans les plans d'effectifs pour l'année prochaine d'assurer le suivi de tout ça pour avoir le personnel nécessaire, TES, services de garde, tout ça. Mais si on n'a pas encore de réponse, on regardait là, dans l'article de ce matin... Il nous disait que sur 221 enseignants qui avaient fait des demandes, ils sont à peu près 80 à avoir eu des réponses. Puis on nous
et
parle
ce sont
pas
des réponses positives ou...
Oui, des réponses okay. positives. Mais il reste que c'est seulement un tiers des personnes qui ont eu des réponses. On a besoin des 100 % nous, et même plus là, pour l'année prochaine. Et au niveau du personnel de soutien, on n'a aucune idée combien ont reçu des réponses positives. Et là, on en a 700. C'est un impact majeur. À chaque adulte, on parle d'environ 25-30 élèves qui sont touchés là, par ces services-là. Donc, c'est un impact sur beaucoup d'élèves pour des personnels qui n'existent pas. On ne les inventera pas. Là. On gratte déjà en cours d'année les fonds de tiroir pour trouver des gens, pas pour, sur leur capacité, sur leurs compétences, mais sur le nombre.
Vous ne le direz pas, mais j'ai l'impression que parfois aussi, on prend quelqu'un qui peut être dans une classe parce qu'il se présente comme étant... bon. Disponible.
Il y a quand même une qualification minimale qu'on va chercher.
Assurément.
On ne prendra pas...
Il y a des entrevues,
oui.
Il y a des demandes de
puis un baccalauréat
oui.
en enseignement. Bien, pas en enseignement. Si on est capable, tant mieux. Mais des personnes avec un bac. Là. Ce qui a déjà été dit dans le passé, ça prend juste un adulte. C'est pas vrai. Pour enseigner dans une classe, ça prend des connaissances particulières. Sans ça, le bac n'existerait pas.
Ça pourrait-tu devenir vrai, par contre, avec cette situation-là, où au moins 1000 employés, dont, vous le disiez, plus de 200 enseignants, plus de 700 membres du personnel de soutien vont voir leur permis de travail arriver à échéance et donc ne plus pouvoir exercer leurs fonctions dans des établissements scolaires?
Bien, tu sais, si on y va vers ça, là, moi, je trouve que c'est une catastrophe annoncée. On ne peut pas penser que de dire, bien, je vais mettre un adulte qui a un cours X, Y, Z devant une classe puis il va être capable d'enseigner. Ça va être un impact pour les jeunes dans le futur, ce qui va être monumental. On le voit dans certaines matières, des fois, qu'il nous manque déjà des enseignants. Je pense à l'anglais, je pense aux mathématiques, que c'est des gens qui se relaient là, à tour de rôle. Les résultats, au bout de la ligne, c'est les enfants là, qui les ont, qui vont avoir de la difficulté à réussir parce qu'ils disent « Bien là, on a parlé de telle chose, là, c'était plus la même affaire. »
Non, mais on vous comprend amplement là-dessus. Là. Changer d'enseignant, c'est pas anodin. C'est une personne qui est supposée de suivre ton processus puis être capable d'évaluer au début de ton année scolaire, tu en es où et à la fin, comment tu as progressé. Ça change constamment. Premièrement, le lien avec l'enseignant est à chaque fois brisé. Donc, l'élève n'est pas capable d'associer une certaine confiance en lui puis être capable aussi de peut-être poser ses questions et tout ça. Des fois, ça prend du temps pour des jeunes. Puis, ben, on n'est pas capable d'avoir un suivi aussi sur l'éducation de cet enfant-là, mis à part dans des chiffres puis des écrits. C'est pas la même chose qu'une relation humaine. Là.
Fait qu'imaginez s'il nous manque 1000 personnes de plus. Et 1000, on parle uniquement des 10 plus gros centres de services. Les 60 autres centres de services ne sont pas calculés dans ça. et on en a qui sont plus petits, mais avec des grandes concentrations de personnel issus de l'immigration. On n'a pas les chiffres pour eux. Est-ce que l'impact va être encore plus grand dans certains centres de services? Je suis curieux là, d'avoir la réponse.
Dans votre secteur, vous, c'est l'éducation, ça va créer des grandes vagues, des problématiques. Ça va peut-être amputer et même amener encore plus de problématiques que la pandémie en a amené, tout ça, dans une forte et grande génération
oui.
qui sont sur les bancs d'école en ce moment. Le fait qu'on renvoie des employés qui sont qualifiés, des employés qui ont été sélectionnés dans leur pays parce que ben on a décidé de resserrer les règles en termes d'immigration. Au niveau de la santé, c'est également touché. On parle de 6300 employés de la santé qui vont voir leur permis de travail arriver à échéance cette année. Mais le ministre Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, en entrevue ici à Boulevard 102.1 et un peu partout, maintient l'importance de faire ce qu'il fait. Bon, on a été capable de scotailler un peu avec lui, il a un petit peu commencé à remuer au vent, mais il maintient sa position. Vous en pensez quoi en ce moment de cette position-là? Parce que vous êtes clairement touché, là. Mais vous voyez que ça touche d'autres problématiques aussi, puis d'autres secteurs ici.
Bien, je ne suis pas ministre. Je ne suis pas dans ses souliers, je n'ai pas tous les détails, mais moi, ce que je suis capable de dire, c'est qu'en éducation, les impacts, on va les vivre demain matin. Donc, on peut pas se dire « Ah oui, c'est une bonne nouvelle, faut faire ça comme ça ». Le fait d'avoir moins d'immigrants risque qu'on en ait moins de familles immigrantes dans les écoles. Là, je n'ai pas les chiffres, je ne suis pas capable d'analyser le portrait ouais. global.
Parce qu'on vous les donne pas?
Bien, actuellement, voyez-vous les chiffres là, de ce matin, là, moi, je les ai appris ce matin en même temps que vous, là, en lisant les journaux, là.
Oh, fait que vous êtes en train de réagir à une nouvelle mm-hmm. que vous n'étiez même pas au courant des impacts qui s'en venaient dans votre secteur d'activité qui est l'éducation, en fait.
Exactement. On avait
ça, un
feeling.
Oh, ben, le feeling.
Qu'il y avait une problématique. J'ai questionné il y a 2 semaines de ça les présidents là, des sections là, qu'on représente.
Parce que vous regardiez votre personnel, vous vous disiez, bon, ben là, nous autres, on en a beaucoup d'immigrants là, qui font partie de nos secteurs d'éducation. Est-ce qu'on sera touché au même titre que la santé? C'était ça, votre feeling?
Ben oui, exactement.
Sans avoir
de dire, on le dit depuis quelques années qu'il y a beaucoup de personnel issu de l'immigration. Je dis, ça risque d'avoir des impacts. Là. Est-ce qu'on l'a calculé? C'est quoi cet impact-là? Et là, boum, ce matin, les chiffres sortent. L'impact, il est majeur là, par rapport à ça. Puis de se dire que tout va bien se passer, qu'ils vont être mis en priorité, ben moi, 80 sur 220, je vois pas ça comme étant une priorité.
Et ils attendent toujours la réponse. Puis pour vous, ben vous êtes en train de boucler les contrats pour l'année prochaine, c'est ce que j'entends.
On commence à regarder ça, là. On est dans la planification. Mais s'il nous arrive avec des réponses en juin, il est trop tard.
Il est trop tard, vous avez déjà à compléter.
Tout le processus est fait.
Ah, le processus. D'accord, Monsieur Bernier. André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, vous réagissiez à cette nouvelle-là que vous avez appris en même temps que nous dans les médias, soit qu'avec la fin du programme PEC, du fait qu'on arrive bientôt à échéance avec des centaines d'employés d'écoles primaires et secondaires qui sont issus de l'immigration et qui sont plongés un peu dans l'incertitude du fait qu'on va les renvoyer chez eux. Leur permis de travail canadien qui arrive bientôt à échéance va vous coûter probablement au moins 1000 employés. Parce que le secteur de l'éducation est aussi menacé par ces départs forcés-là. Je trouve ça un peu aliénant que vous avez appris ça dans les nouvelles en même temps que nous. Officiellement, avez-vous, et ce sera ma dernière question pour aujourd'hui, un contact avec ces décideurs-là ou vous venez parler à la radio parce que c'est votre seul espoir de contact?
C'est le premier pas de parler à la radio parce que là, on réagit là, à chaud, mm-hmm. je vais dire comme ça. Mais on va faire des démarches pour pouvoir parler là, au niveau du ministère, le MIFI, là. Pour avoir là, des réponses plus claires par rapport à ça, parce que les impacts sont trop importants pour les élèves.
Trouvez-vous ça étrange qu'on ne vous ait pas téléphoné avant?
Non. Je vous dirais, c'est dans la procédure habituelle, et surtout que ce n'est pas notre ministère.
Est-ce que vous me permettez de critiquer ou de trouver étrange la procédure habituelle dans ce cas-ci?
Tout à fait.
Je suis libre de mes opinions?
Tout à fait.
Merci beaucoup. Merci.
Ça me fait plaisir.
Merci, André Bernier. On va se reparler assurément. Vous êtes toujours dans le Point de Max. On revient dans un instant. C'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot qui s'amène.
Attention, Zoom Lunettes, c'est plus de 3000 montures à partir de 20 $, mais aussi de grandes marques. Forfait vert et montures, simple vision 70 $ et progressif 150 $.
Zoom, zoom, lunettes!
Les Jeux du Canada feront vibrer la ville de Québec en 2027. Viens célébrer le décompte officiel d'un an avant les Jeux le 27 février prochain à la Disco Glace du Port de Québec. Enfile tes patins et joins-toi à nous. Info à jeuxducanada2027.ca.
Ça, c'est le son d'une Toyota Prius hybride branchable qui utilise le moteur à essence pour une
une escapade à l'extérieur de la ville. Et ça, c'est le son de la Prius qui utilise l'énergie de sa batterie pour un dîner à l'extérieur du bureau. Deux extrêmes, une Prius hybride branchable avec jusqu'à 962 km d'autonomie combinée. C'est l'heure de conduire la vôtre, c'est l'heure Toyota. Découvrez de nouveaux modèles emballants comme la Prius hybride branchable. Visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
Envie d'un nouveau défi? Cométal recrute un estimateur en ventilation. Vous n'avez jamais fait d'estimation? Aucun souci. Ce sont vos connaissances en ventilation qui nous intéressent. Le reste, on vous l'apprend. Salaire concurrentiel et avantages dès l'embauche.
Envoyez votre candidature à rh@commercialcométal.ca.
Ici Nathalie Clark, porte-parole pour Miville Climatisation Chauffage. Profitez du confort d'une thermopompe murale ou centrale de marque Mouvert, classée numéro 1 par Protégez-vous, grâce à Miville Climatisation Chauffage. En tant qu'agent autorisé, Miville vous offre une installation professionnelle rapide et garantie. Économisez sur vos factures d'énergie et profitez de subventions pouvant réduire vos coûts d'achat. Subventions admissibles, renseignez-vous chez miville.ca. Mouvert et Miville Climatisation Chauffage, le duo gagnant pour votre maison.
Le lundi 2 mars, à Expo City, venez célébrer le 21e anniversaire de l'événement le plus prestigieux de l'année. La soirée bénéfice avant-première de l'International de l'Auto de Québec. Musique, nourriture, boissons, acrobates et plus. Les fonds amassés seront remis à la Fondation Mobilis qui vient en aide aux gens ayant des besoins liés à la mobilité. En collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Services aux concessionnaires, IA Financement Auto et Boulevard. Billets au internationaldelautodequebec.com.
Découvrez Car Expert HM, Centre-Ville Lévis. Une équipe certifiée à la fine pointe.
Fait le point sur les gros dossiers du jour, les développements et le wrap-up de ce qui fait jaser aujourd'hui.
Max, pourquoi tu te lances toujours dans les histoires galères?
Boulevard 102.
Jusqu'à midi, le point de Max.
Magnifique journée sur Québec. En ce moment, c'est moins 8. Ça pourrait monter à moins 6. Toujours drôle de donner la météo l'hiver. Moins 8 et ça pourrait monter à moins 6. Mais c'est quand même assez printanier là, comme température. Audrey Pinchot, salut.
Bon matin.
Avoue qu'on est bien là, quand il fait soleil comme ça.
Je passerai des journées à l'extérieur en ski. J'irai me promener. Le vent n'est pas trop intense non plus ce matin.
Le vent ou le vent?
Le vent.
Ah, okay.
J'ai le nez bouché. Je commence à être malade. Ça a sonné le vin.
C'est comme il n'y a pas de problème là, pour un vin corsé. Mais
non. Le vent. Non, fait qu'on est vraiment bien dehors.
Puis, t'es comme moi, t'aimes ça te promener tôt le matin, marcher, tout ça. Ouais. Fait que les matins deviennent un peu plus agréables qu'à moins 30.
Là, on est dans cette période-là, le fun, où tu peux ressortir un peu les souliers, là. Puis, tu sais, tantôt, je suis sortie du gym, mettons, j'ai pas mis mon manteau pour me faire accraire qu'on était vraiment le printemps.
Ah, c'est beaucoup.
C'est psychologique.
OK.
C'est psychologique.
Est-ce que ça te fait du bien?
Absolument.
Ben, c'est ça l'important.
Ben, c'est ça, je me dis.
Puis, j'ai une question à te poser parce que ça a vraiment fait réagir. J'asais du dossier dans le soleil sur les RPA. En gros, on a été des clients mystères. On est allé dans plein de villes au Québec, en fait, dans la province. Puis, on posait sensiblement les mêmes questions. On analysait les coûts pour le loyer mensuel. On analysait les services, le prix, la disponibilité, les soins, etc. OK? C'est vraiment intéressant. Puis, je ne sais pas si ça fait partie de ta vie. Tu sais, nous, on est encore un peu jeunes. Mais ça reste que financièrement, on y pense. On en met de côté le plus possible. On est un peu là-dedans. On commence. Mais pour nos parents qui nous ont tellement donné, c'est quelque chose sur lequel on se questionne. T'sais. Est-ce qu'on aura assez d'argent pour les aider si jamais on a envie qu'il y ait, pas une retraite, le moment où ils seront âgés, donc une fin de vie qui sera confortable.
Oui.
Là, tu te dis, CHSLD avec tout ce que j'entends. Bon, RPA, c'est-tu mieux? Maison bigénérationnelle, ça me tente-tu? On peut-tu? Etc. C'est quelque chose qui te trotte, toi, par la tête. Ça t'a tellement fait réagir, là.
Moi, je te dirais que c'est quelque chose à quoi j'ai énormément pensé. Puis c'est quelque chose qu'on avait abordé dans mon ancienne relation. Ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Puis on se disait souvent que si on avait à le faire, c'est-à-dire d'emménager dans une maison bigénérationnelle, on le ferait.
Moi, j'ai pas... C'est ça, l'option
absolument
qui était envisagée.
Absolument.
Pour tes parents ou les siens aussi, c'est-à-dire?
Les deux. Ah oui, on était rendu à se dire, au pire, on achète une ferme, on achète un terrain, puis on met tout le monde sur le même lot. Là.
Une commune, puis vous êtes dans le poulailler.
Mais le pire, c'est que ça veut pas dire que c'est un bout de vie qui est le fun. On aime ça avoir notre indépendance, avoir notre famille, nos affaires, notre bulle. T'sais, je veux dire, il y a personne, je pense que je demanderais à mes parents, puis il y aurait pas non plus envie que leurs parents soient tout le temps dans leurs pattes à un certain niveau. Puis je pense que c'est normal, c'est pas mal de dire ça, c'est pas nécessairement mal vu. Mais j'ai vraiment l'impression que je me verrais pas les mettre être dans un CHSLD. En RPA, s'ils sont autonomes puis qu'ils trippent sur l'endroit où ils sont, tu sais, moi, les grands-parents de mon ex-copain, j'ai quasiment envie de dire que c'est comme mes grands-parents, je les aime d'amour, puis ils sont dans une RPA sur Lormière, le manoir Lormière, quelque chose comme ça, c'est trippant cet endroit-là.
Ils ont du fun.
Mais non, mais
bien.
J'aurais rêvé d'habiter là pendant mes études. Là. Il y a tout, tu peux jouer au pool, tu peux jouer au bowling.
J'aurais aimé ça que t'habites là aussi, je pense.
Ah, non, écoute, c'est vraiment un bel endroit. Fait que RPA, je suis pas fermée quand c'est des beaux endroits, ouais. C'est bien fait, mais c'est super chérant.
Ben oui.
Fait que rendu là, 2000 tu
quelques, 2005 pour un 3,5 en moyenne dans ce qu'a fait.
C'est petit, là.
C'est petit.
Puis c'est pas nécessairement au goût du jour non plus, on s'entend. Fait que...
Non, on comprend qu'il y a des services puis des soins aussi, donc c'est compris dans le prix, mais... Ça reste que c'est pas tout le monde qui va pouvoir se payer ça.
Non. Puis je préfère, rendu là, que mes parents, les sous qui leur restent à la fin de leur vie, puissent les utiliser pour eux, pour voyager, pour faire des activités, puis qu'on s'arrange à la limite.
Ça, c'est si la santé leur permet.
Absolument.
Ça fait vraiment réagir pour continuer de le faire au 88-971.
Mais c'est dur, hein? Être proche aidant, là, je salue les gens qui sont capables de le faire parce qu'il y a des parents qui tombent avec des maladies cognitives, dégénératives. Il y a des cas où c'est vraiment pas drôle. Fait que là, c'est facile à dire, tu le dis, on est jeune. C'est facile de se projeter comme si nos parents allaient être en santé puis que ça allait bien aller, tu sais, puis qu'ils auraient juste besoin d'un petit coup de main. Mais j'ai l'impression que des fois, c'est pire que ça. Puis je ne juge pas les gens qui envoient leurs parents en CHSLD quand ils n'ont plus nécessairement le choix.
Quand
mais
pas
c'est pas mon souhait.
Apporter ces soins-là. Aussi, puis aussi. Finalement, t'es endommages plus que le contraire. Mm-hmm. Mais oui, ça peut être absolument triste de
ça
voir.
Ça dit quoi par texto?
Entre autres, on est justement dans le processus de vendre la maison familiale. C'est une belle maison sur le bord d'un lac. Mes parents sont encore très actifs, 81-83. Ils regardent pour un loyer, j'imagine, là, en attendant de trouver des places en centre. Pour ma part, je crois pas vraiment à ce concept de retraite, mais je préfère pas aborder le sujet puis les laisser faire. Quelqu'un d'autre qui dit, je trouve ça vraiment difficile. J'aurais pas le choix en CHSLD pour mes parents. Je me demande si ça va même me stopper d'aller les visiter tellement que je vais être honteux de leur faire subir ça. Tu sais, t'as de la honte, là, t'as de la tristesse là-dedans. Quelqu'un qui dit « Hey, vieillir en CHSLD, as-tu vu l'état des infrastructures? Le monde est en train de s'écrouler et tout le monde regarde tomber nos acquis, notre humanité. C'est pas dans la guerre qu'il faut investir, mais dans la vie, jusqu'au bout du rouleau, avoir la date d'échéance et la stupidité humaine sans limite. » Ça vient vraiment chercher. Quelqu'un qui dit « Hey, moi, je le fais, je suis en générationnel avec mes parents, ça se passe super bien. »
Mais ça ne doit pas être si pire. Parce que tes parents veulent leur bulle aussi, ils n'ont pas envie.
Je pense que ça dépend des relations.
Peut-être.
Mais c'est sûr que la conversation doit être entreprise, doit être claire.
Parce que toi, demain matin, Pascal, tu as des enfants, t'as-tu envie, tu comprends, qu'ils soient dans tes pattes tout le temps quand t'es plus âgé, puis qu'ils te gèrent, puis qu'ils... Moi, je veux dire, genre ta fougère, moi, gère la mienne, si j'ai besoin d'aide, je vais lever la main.
Oui, moi, j'ai la chance que mes parents ne soient pas ce genre de personnes-là, mais j'ai la chance parce que moi, je suis indépendante. Puis j'ai vraiment
besoin
de ma bulle.
Mais je te parle de toi, si tu as des enfants.
Oui.
Tu sais, je fais le parallèle. Moi, je sais que oui, c'est ça.
Dans mes affaires en tant que personne âgée.
Exact.
Oui, je pense que oui.
Oh, ouais, OK. Moi, je garde ta bulle, je vais garder la mienne. Si j'ai des besoins, je vais aller cogner.
À l'âge, mettons, de la sagesse,
oui.
On en fera un autre sujet à un autre moment, mais mettons, tu travailles plus, puis tu sais, envoie-moi mes petits-enfants, viens souper. Tu sais, juste quand j'étais seule, mettons, dans mes périodes de célibat. Tu fais à souper, puis t'es comme, y a-tu quelqu'un qui en veut?
Ouais. Je voulais pas déranger mes enfants,
mais par contre, en ce moment dans ma vie, cogne pas, puis rentre pas chez nous sans m'avoir dit que t'es là.
Je te suis.
Mettons. OK, on lance l'open mic dans le point de Max.
À Boulevard, il y a un moment où on prend le temps d'écouter, le temps de comprendre. C'est l'open mic avec Audrey Pinchot. Un espace pour les vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Ce matin dans l'open mic, Pascal, je nous amène un invité, un collaborateur, je peux l'appeler comme ça maintenant, qui fait partie du show à peu près aux 2-3 semaines, dès qu'on a un sujet en fait qui nous interpelle par rapport au milieu carcéral, au milieu des tout ce qui touche les pénitenciers, les prisons. Carl Ruel, qui a été 25 ans agent correctionnel au pénitencier de Donnacona, il y en a vu de toutes les couleurs de ce côté-là. Et ce matin, on aborde le code carcéral. La dernière fois que tu étais venu, Carl, on avait jasé de tout ce qui était enseignement entre les murs, comment ça fonctionnait. Puis depuis que tu collabores avec nous, honnêtement, j'en ai quand même appris beaucoup. Je savais qu'on était lousses ici avec les pénitenciers, les prisons, mais je ne savais pas à quel point on était capable de reproduire la vie de tous les jours en dedans. Et le code carcéral, c'est un sujet que tu m'as envoyé il y a quand même plusieurs semaines maintenant. Puis c'est relié directement, j'ai envie de dire, à tout ce qui est violence. Puis il y a quand même une bonne hausse des agressions dans les prisons. Il y a des statistiques qui sont sorties. On parle de 45 % d'augmentation des agressions dans les pénitenciers fédéraux dans les dernières années. Fait que 2021-2022, autour de 2265 incidents qui sont reliés à des agressions. 2024-2025, 3279, fait quand même une bonne augmentation de 1000. Là, on parle des pénitenciers fédéraux. Toi, tu étais au provincial.
Non,
tu étais au fédéral. Ah, ben oui, de Laconache. Excuse-moi, mon Dieu, excuse-moi. J'allais te dire, est-ce que ça se compare? Ben en fait, je vais te la poser quand même. Trouves-tu qu'au provincial, on est dans les mêmes eaux au niveau des augmentations de violence? Oui.
Oui. Oh, oui, c'est juste la sentence qui fait la différence entre le fédéral et le provincial. Mais on s'échange les mêmes détenus. OK? Exemple, un détenu qui va être incarcéré à Donnacona puis qui s'en va pour des procédures judiciaires qui peuvent durer 2-3 semaines, bien, le provincial vient le chercher à Donnacona le matin, il l'amène, exemple, mettons, pour ici, à Saint-Ville, puis il va être détenu à Saint-Ville pendant les procédures au palais de justice, puis il va nous être ramené.
Puis ils se connaissent entre eux, probablement.
Ils se connaissent entre eux. Des fois, ils arrivent à Donnacona, mais les gars, ils ont fait un petit peu de temps ensemble à Saint-Jérôme, exemple. Puis ils se sont croisés à Sherbrooke. Puis là, ils arrivent au fédéral. Ils se connaissent un peu tous.
Ça baigne dans le même bassin pareil, là, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Le fameux code carcéral, c'est quoi exactement? Parce qu'on dirait qu'on est capable de se l'imaginer un peu, là, mais je me demande au day-to-day comment ça s'applique.
Bien, vois-tu, comme dans l'article que je t'ai envoyé, l'article le montre quand même bien. C'est un mélange de mythes, légendes urbaines et réalité. Dans le sens que la croyance populaire, c'est comme si c'était un espèce de code de loi non écrite très rigide, très respecté, très appliqué. Mais la réalité, c'est pas ça. OK? La réalité, c'est pas ça. Ça dépend c'est qui est impliqué dedans. Ça dépend c'est qui veut le faire appliquer. Ça dépend c'est qui serait la cible, si tu veux. Fait que c'est très aléatoire. D'ailleurs, l'article le montre très bien. L'article parle d'un détenu qui était quelqu'un de très influent dans le monde des gangs de rue en Colombie-Britannique, qui a été condamné pour 6 meurtres. La raison de ces 6 meurtres-là, ça serait un peu le principe, justement, de ce code-là à l'extérieur, c'est un peu le code dans le monde criminel, si tu veux. Fait que lui, il a comme appliqué son code de sa vision, il a fait 6 meurtres, il rentre en dedans. Mais là, il essaie d'utiliser ce fameux code-là devant les tribunaux pour dire, ben j'ai refusé de répondre à des questions au tribunal, j'ai été condamné pour outrage au tribunal, mais je veux me faire acquitter de cette condamnation-là parce que si j'ai pas parlé, c'est parce que le code me l'interdit. Fait que tu vois que d'un bord, lui, il a fait sa carrière. C'était un gars qui était très violent, OK? À tel point que lorsqu'il était à Donnacona, c'est nous autres, le groupe.
Fait que si je respecte pas le code carcéral, il va peut-être m'arriver quelque chose. C'est un peu ça.
Oui ou pas. Ça dépend c'est qui. Je vais te donner un exemple.
C'est quoi, tu peux pas dénoncer des détenus?
Bon, je vais te donner un exemple. Tu parles de dénoncer. Théoriquement, dénoncer, c'est mal vu. OK, t'es une balance, t'es une ci, t'es une ça. C'est mal vu. Ceux qui dénoncent le plus dans les opérations quotidiennes aux pénitenciers, c'est souvent des hauts placés dans la hiérarchie des détenus.
Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un à leur trousse nécessairement.
Non, parce que ça leur profite. Ils vont tasser soit, mettons, un rival de trafic, ils vont en profiter pour le tasser, soit parce que le gars, il arrive, exemple... il est sur le bord d'avoir sa libération conditionnelle. Il sait qu'il va se passer quelque chose. S'il est impliqué, il perd sa conditionnelle parce qu'il serait impliqué dans des justices et tout ça.
Fait que
par intérêt personnel, il va aller se touler.
Okay.
Mais pourtant, c'est un des hauts placés, des fois un patché, des fois un gars de la mafia.
Puis on parle pas nécessairement d'être délateur. On parle juste de donner de l'information. Parce que délateur, tu as une certaine protection. Là, on parle pas de ça.
Non, on parle justement de donner de l'information. Mais comme l'exemple que tu suggères, montre très bien à quel point c'est très élastique, les notions, dans ce code-là. OK? Puis, il se casse pas la tête à savoir si tu es vrai ou pas.
Il n'y a personne qui a les mêmes règles, on dirait, là.
Non. Mais je vais te donner un exemple. Une autre affaire qui est mal vue, un agresseur sexuel, exemple, ou quelqu'un qui bat une femme. OK? En théorie, ce serait mal vu. En réalité, il n'y a aucun gang de rue qui n'a pas fait des agressions sexuelles et qui n'a pas battu des femmes. Môme Boucher en avait. OK? Puis si tu as un standing dans le monde criminel, ben d'avoir battu une femme, c'est juste que tu as assumé ton autorité. Mais le petit clin qui arrive, qui n'a pas de réputation, lui, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Lui, s'il a fait ça, lui, il va se faire battre.
OK. Tu comprends? Parce que ça, on entend ça. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Là. Les gens qui font des agressions sur enfants, sur des femmes, se font passer
enfin,
en dedans.
Enfin, de toute façon, au départ, nous autres, on ne prend pas de chance. Le gars
vous les isoler, vous les protéger?
Oui, c'est que le gars il est sentencé pour pédophilie. Il est automatiquement... c'est nous autres qui lui donnent l'étiquette de protection.
Fait que vous le sentez comme agent correctionnel, vous autres, le fameux code criminel.
Bien, comme ça, c'est assez évident. Fait que, tu sais, on les mélange pas avec les autres. OK? Un policier qui rentre en dedans, on va tout de suite le mettre en protection. OK?
Ah, oui.
Mais le reste, on le sent, mais comme je te dis, c'est très élastique. Fait qu'il y en a que, selon le code, en théorie, auraient dû manger des baptêmes de volée. Mais il ne se passe rien parce qu'eux autres, il y a un prestige par rapport aux autres détenus, parce qu'ils sont influençants, parce qu'ils sont utiles. Exemple, la personne est très utile, elle a des contacts pour faire rentrer la contrebande, bien, on ne le battra pas, on va accepter ce qu'il a fait, parce que ça nous sert.
Okay. Est-ce qu'on peut avoir des éléments ou de la drogue ou des téléphones cellulaires?
C'est
ça. Y a-t-il des différences entre avant et maintenant que tu as observées dans ces codes-là?
Oui. Je te dirais qu'aujourd'hui, le code est rendu plus du genre légende urbaine que réalité.
J'aurais pensé que ça aurait été l'inverse à cause des gangs de rue, vois-tu?
C'est à cause des gangs. Les gangs de rue n'ont pas de code. On va prendre les deux extrêmes. La mafia, qui fonctionne uniquement par code d'honneur, et les gangs de rue, c'est 100% opposé. Les gangs de rue n'ont pas de code d'honneur.
Ce qu'on voit dans les rues actuellement, là, genre on touche pas aux femmes, aux enfants, on fait pas de meurtre devant. T'sais, ce code-là qui était souvent vu dans les groupes criminalisés, qui n'est pas respecté par les gangs de rue, c'est la même chose en prison?
C'est la même chose. C'est la même
chose. Ça se traduit comment? Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent?
Oui. Je vais prendre un exemple. Là. Je reprends encore parce que ça image bien. Je prends les deux extrêmes. Rarement, on a vu quelqu'un de la mafia essayer de s'en prendre aux agents. OK? Même souvent, peut-être par manipulation, mais souvent, sont polis avec nous autres. Puis ils comprennent la game que... mon métier, c'est de faire ça. Puis dans mon métier, bien, des fois, ça implique un petit passage en prison. Mais je veux avoir la paix en prison. Je fais pas de merde. Puis j'essaie de... T'sais. Les gangs de rue, eux autres, là, c'est chercher des prétextes pour écœurer le personnel. C'est aller jusqu'à des agressions physiques sur le personnel. Entre eux autres, une journée, sont ensemble. Puis... pour une mauvaise perception, une phrase mal placée, bang, la gang elle se divise en deux, c'est rendu deux gangs rivales. C'est ce qui arrive avec le BFM présentement. Mmh. Fait qu'eux autres, ils ont de moins en moins de structure. Tu sais, les gangs de rue, ça n'a pas de structure organisationnelle, mais ça n'a aucune structure dans tout.
Mmh. Okay? Morale non plus.
Morale non plus. D'ailleurs, il n'y a pas plus abuseur sexuel sur des femmes que des gangs de rue.
Ben, tu sais, on avait entendu, puis là, je vais parler au conditionnel, mais on avait donc bien entendu qu'un des rites de passage pour faire partie de certaines gangs de rue à Québec, dont le BFM, c'était les agressions sexuelles.
C'est ça. Fait qu'imagine-toi que si t'en arrives à des choses comme ça, puis en dedans, tu veux appliquer le code, que c'est agressé, ben, ils vont tous se battre entre eux autres.
Comment est-ce qu'on arrive à avoir eu un changement de paradigme puis de vision là-dessus? Parce que, bon, dans le temps où Môme Boucher régnait encore au sein des Hells Angels, il y a eu des attaques sur des agents d'incarcération. Puis ça a mené à une commission hautement importante. Ça a mené à un procès, même deux procès pour Môme Boucher. Là, on a pris ça au sérieux. Là, il y a eu des agents correctionnels qui ont été tués. Là, ils sont agressés, sont au bout du rouleau. Plusieurs témoignent à quel point c'est rendu merdique, cet emploi-là, dangereux même pour leur famille. Puis ça semble pas vraiment chauffer le système carcéral assez. Là.
Écoute, regarde, tu as donné une idée. Il y a quelques jours à peine, il y a un agent à Bordeaux qui s'est fait suivre jusque chez eux par drone. OK? Ça te donne une idée, là? C'est rendu...
Comment est-ce qu'on fait pour tolérer ça?
Et ça, c'est qu'on n'a aucune écoute des autorités. Je pense que c'est vendredi ou jeudi, le Service correctionnel Canada a annoncé des coupures. Des coupures qui vont mettre encore plus en danger les établissements déjà fragiles et, par conséquence, aussi la population, parce que ces détenus-là, là, à un moment donné, ils ressortent, là. OK? Fait que c'est, si tu veux la réponse simple, mais qui en réalité devrait être complexe à répondre, ben c'est un désintéressement au fédéral. Nous autres, on a vécu les 10 dernières années de la gouvernance Trudeau. Comme je dis tout le temps, je ne veux pas aller dans la politique, la philosophie de la politique, mais la conséquence a été réelle. De politique, ça, ça a switché entre « on garde des détenus » à « on voit les détenus comme un patient en santé qui a besoin de soins. » Puis on s'est perdu carrément. Là. Donc,
les autorités
carrément.
Qui ne vous écoutent pas ou ne prennent pas ça au sérieux, par exemple, le drone, est-ce qu'on parle des services policiers? Est-ce qu'on parle des patrons au niveau des agents carcéraux? Est-ce qu'on parle du ministre de la Justice?
Ben, je te dirais à peu près toutes ces réponses-là. Les policiers vont quand même écouter lorsqu'on a réussi à les impliquer. C'est des partenaires pour nous autres. Mmh. C'est pas un problème de ce côté-là. C'est vraiment au niveau des autorités. Il y a une prison provinciale où, par drone, ils ont fait tomber des pierres sur des véhicules dans la section stationnement d'employés. Puis la direction de l'établissement dit non, passe par tes assurances, là, c'est pour, tu sais, c'est...
Oui,
alors que c'est carrément un geste d'intimidation sur le personnel, tu sais. Fait que là, il se passe rien.
Mais qu'est-ce qui vous manquerait, Carl? Parce que tu dis, bon, il y a encore des coupures avec ces sous-là. Mettons que tu nous simplifies ça pour les gens qui écoutent, là. Qu'est-ce qui manque sur le terrain qui pourrait... Au-delà, je ne parle pas d'améliorer vos conditions en soi,
non,
plus
non,
que
on
la
parle pas
fonctionnement...
salaire, on parle pas de rien. Là.
Non, c'est ça. Je parle du fonctionnement vraiment des pénitenciers.
Ben moi, je dirais prendre une pause, là, puis de dire, OK, c'est quoi le but d'avoir un pénitencier, d'avoir un système carcéral dans une société, puis recommencer avec ça. Là. Le but, là, en partant, il y a deux buts. C'est un... Prendre des citoyens qui ne vivent pas convenablement en société, les isoler du reste de la société pendant un certain temps, et à essayer de faire qu'en sortant, ils vont respecter certaines affaires. Okay? Ils vont respecter la vie en société. Mm. Là, on met beaucoup plus d'énergie sur... Écoute, il y a des détenus qui se font changer de sexe, là. Je pense pas que c'est le rôle du service correctionnel d'assumer ces niaiseries-là, là. OK?
Soigne, on traite peut-être trop les détenus.
Oui, c'est qu'on
versus
va...
s'assurer de la sécurité du public.
C'est qu'on va sur des grands principes philosophiques qui pourraient marcher avec des gens plus normaux avant qu'ils glissent dans la criminalité.
Ouais.
Mais une fois que tu es embarqué dans le réseau, là...
C'est trop de concessions,
c'est
finalement.
Trop... Ben, ouais. Oui, au détriment de la sécurité, puis au détriment de dire, regarde, il y a une raison pourquoi tu es là, OK? Le reste, là...
Tu géreras ton mal-être en sortant d'ici pour l'instant,
puis
c'est pour une raison.
Établir un calendrier dans les sentences, OK? Le détenu a 10 ans à faire. Ça donne absolument rien de tout lui donner dans les deux premières années, puis après ça, quasiment le laisser à lui-même pour les 8 dernières. Parce que c'est au bout du 10 ans qu'il va être un citoyen à part entière. C'est là qu'il faut l'aider.
Fait qu'un suivi plus équilibré.
Oui, c'est ça. Puis au mérite, exemple, bien, en maximum, peut-être qu'avoir moins de bien-être, si tu veux, puis de programmes.
Ça ressemble à quoi, mettons, en sécurité maximale en ce moment lors des pénitenciers? Est-ce qu'ils mangent du filet mignon ou quand on parle de privilèges? Comment tu couperais ça, toi, qui as vécu 25 ans au sein de pénitencier? Pas en tant que criminel, en passant.
Qui a travaillé 25 ans.
écoute, c'est sûr qu'il y a plusieurs largesses. OK? Il y a plusieurs largesses. On pourrait... Tu sais, tu parlais de l'alimentation, là, OK? Ben une des largesses, c'est la religion est basée sur des déclarations volontaires, OK? Donc, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des détenus qui vont se déclarer musulmans. Et là, à ce moment-là, les repas qui leur sont amenés, c'est fait par des traiteurs halal à l'extérieur. Donc, c'est au pénitentiaire, ils font rien que les réchauffer. Mais là, l'absurdité, c'est que... pour ne pas créer de préjudice. Donc, sa portion de bouffe normale faite au pénitencier, elle est acheminée dans l'unité pareille. Il a son repas à l'air qui est de meilleure qualité, souvent. Fait que là, lui, il choisit entre les deux. Puis la portion qu'il prend pas, bien, il y avait un autre. Ou, pire que ça, le détenu part en cours extérieur 2 semaines, mais à chaque jour, sa portion doit lui être livrée pareil. Là, tu vois-tu, là, non seulement on garoche l'argent dans le vide absolument pour rien, deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On l'encourage dans son mode de délinquance parce que lui, il voit la possibilité de dire « Hey, je reçois 2 repas au lieu d'un. Asti, je vais en vendre un. »
Ouais. Il se trouve des trucs, t'sais? Pour...
Puis là, après ça, ben, puis le lendemain, on va l'envoyer sur une thérapie par rapport à sa délinquance, mais dans les faits, on l'encourage. L'isolement préventif, le gars fait quelque chose, on l'amène dans le nouveau genre d'isolement préventif qui n'en est plus un, puis on le ramène tout de suite après ça dans l'unité, puis fait que les gars, ils n'ont plus de conséquences quand ils font quelque chose non plus.
Fait que ça les mène à reproduire certaines actions.
On les encourage totalement à renforcer leur comportement. Parce que, tu sais, un délinquant, là, par définition, là, il essaie d'exploiter les failles d'un système. C'est ça, un délinquant.
De contourner, okay? Le système, totalement.
De contourner le système à son profit. Ouais. Ben là, nous autres, la façon qu'on les gère, dans le fond, c'est que on les aide dans cette chose-là. Fait que j'aurais beau lui donner n'importe quelle maudite thérapie puis l'envoyer à l'école.
Ça changera rien.
Ça changera rien. Il sort de là, puis...
On prend pas le bâton par le bon bout, finalement.
Non, je voudrais pas arriver non plus à des châtiments corporels comme quand on a fait l'histoire du pays des
pénitenciers. On est passé quand même d'un système punitif à un système de réinsertion.
Sauf que là, c'est beaucoup trop...
Ben trop lus.
Oui, puis c'est gérer les mauvaises priorités. Ils vont gérer en fonction de dire, OK, là, il faut qu'on réduise le nombre de personnes incarcérées. Mais là, ils libèrent plus de monde parce qu'ils changent des critères, parce qu'ils rendent ça plus facile. Mais pas parce qu'il y a plus de détenus qui méritent une libération.
Je te suis.
Puis les détenus, nous autres, on ne va pas les chercher, là. Le détenu, il fait de quoi? Il se fait arrêter, il est sentencé, on le reçoit.
J'ai envie qu'on termine, parce qu'on parlait du code carcéral en introduction de discussion, puis bon, de la violence dans les pénitenciers, puis comment on essaie de limiter cette violence-là? Parce que là, vous êtes pris avec partout, là. On l'a vu, nous autres, dans la ville de Québec.
Vendredi, là, il y en a eu une très grosse à Donnacona encore, là.
Mais ça ne m'épate pas pantoute. Mais comment vous limitez cette violence-là, vous, comme personnel? Est-ce qu'on la punit, la violence? Comment on la gère? Comment on essaie de la réduire?
On
ferme les yeux parce que notre vie est en danger?
On ferme jamais les yeux.
Okay.
On ferme jamais les yeux, mais malheureusement, à cette heure, on est rendu comme des pompiers.
C'est-à-dire?
On intervient quand le feu est là.
OK.
OK.
Pas de prévention, dans le fond.
Il y en a de la prévention, mais on n'a plus d'outils pour l'appliquer. Je sais que tel détenu, il est dangereux dans le secteur. Je sais qu'il se... Mais ça nous prend de l'information terrible pour réussir à changer de place, à changer d'établissement.
Des preuves. Vous devez quasiment faire une enquête avec des preuves, c'est ça qu'on comprend, versus avant.
Oui, puis lorsqu'il y a un gros agression ou même une petite agression, OK, bien là, le détenu, on a de la misère à l'envoyer en isolement. Fait que là, il revient, ils n'ont plus de conséquences. Le gouvernement Trudeau a décidé qu'un détenu pourrait faire maximum 90 jours par année en isolement. Qu'est-ce qu'on fait si son 90 jours est fait puis il continue à faire du trouble?
C'est quoi les autres solutions, là?
Bien là, on tombe en disant, OK, est-ce qu'on est capable? Là, l'administration, des fois, essaie de contourner en disant, bien là, cette unité-là, c'est pas ça. On crée une nouvelle population, mais là, ça devient compliqué à gérer dans le quotidien. Quand on réussit à assez documenter par un travail acharné, on va dire, comme exemple, le gars dans l'article, bien, c'est un gars de l'Ouest, mais on lui a donné à Nakona. Parce qu'à un moment donné, il était trop problématique là-bas. C'est ce qu'on fait. Fait que là, on passe nos semaines longues à s'échanger des détenus. On a des détenus qui arrivent des Maritimes. Nous autres, on en envoie en Ontario. L'Ontario en envoie dans l'Ouest. Puis on fait ça de même.
Pour essayer d'avoir un calme?
Pour essayer de diminuer l'impact de certains groupes. Puis, fait que dans le fond, on s'échange nos pires. OK?
Au lieu de faire régner le calme par les autorités.
C'est ça.
Je vois que le temps passe, effectivement. Carl Ruel, vous avez été agent correctionnel. Puis Audrey avait une super question, puis je veux pas qu'on passe à côté pour terminer tout ça. elle se demandait s'il y avait une forme de code du silence chez le personnel, parce que c'est rare qu'on entend des choses. C'est un peu ça, ta question, Audrey?
Oui, absolument. Mais tu l'as très bien dit, là. On a le code carcéral, mais existe-t-il aussi une forme de code de silence chez le personnel? Quand je te disais, est-ce que ça arrive que vous fermez les yeux? Tu sais, t'en as vécu des solides là, dans ton 25 ans. Là. Ouais. Des fois, la violence peut-être peut mener à un enjeu de sécurité pour vous, le personnel aussi.
Oui. Le laisser aller va toujours être pire. OK? Fait que c'est pour ça que non, il n'y a pas de... Bon, je peux pas répondre pour tout le monde. Il y a peut-être quelqu'un, un moment donné, qui se dit « Ah, ben là, écoute, regarde-moi, premièrement, quand il arrive quelque chose, là, on est toujours enquêté, puis on subit toujours l'enquête comme si c'était nous autres les responsables.
Okay.
On a tout le temps la menace d'avoir des accusations. Puis... Donc, souvent, ce qui peut arriver à cause de cette pression-là, des fois, la personne va dire « Bon, ben je vais m'attendre qu'elle ait donné 7-8 coups avant de prendre la carabine puis de tirer. » OK, ça peut être une affaire comme ça, mais de dire « Volontairement, je me ferme les yeux », ça peut toujours être pire. Fait qu'il n'y a pas personne qui fait ça, parce que de toute façon, on va ramasser les pots cassés encore pire après.
Oui.
OK? Fait qu'il n'y a pas... Je peux pas parler pour 100% du staff, là, mais c'est pas une chose qui se fait régulièrement. Là.
Mais le patronat doit trouver ça difficile quand certains racontent les histoires à l'intérieur des pénitenciers en se disant « Ouais, ben ça brasse, puis on n'est pas toujours super dans nos interventions, nos demandes envers vous. On vous met à risque dans d'autres choses. » Fait que le code du silence doit être un peu, parfois, dans ce genre de situation-là, respecter.
Ben c'est sûr si que je pourrais pas faire ce que je fais depuis juillet 24, d'aller dans différents médias.
Si vous étiez encore...
Je peux pas le faire si je travaille. Ouais. OK, on a même pas, non seulement je peux pas le faire au niveau que c'est même interdit.
Je pense que c'est un problème, ça, parce que vous auriez la population de votre bord un
petit
peu
manque
plus
de transparence. Ouais. Là, ouais.
Les seuls qui peuvent parler, qui ont le droit de parler, c'est le président national du syndicat qui a le droit de parler, mais encore là, il est comme encadré. Mais mettons, si le président national, il est dans la région de Montréal, mon président local à Donnacona, lui, il a pas le droit de vous répondre.
Sur des choses.
Puis le service correctionnel.
On est bien content de t'avoir.
Oui,
puis le service correctionnel, lui, il laisse pas personne répondre, à moins d'avoir une permission. Sinon, la personne désignée porte-parole.
Comme dit Audrey, merci Carl Ruel d'être avec nous puis de venir dans l'open mic avec Max et Audrey aussi souvent que tu le fais. Super intéressant, les gens ont encore énormément apprécié. C'était le sujet aujourd'hui. C'est quoi le code de prison finalement? Alors, merci Carl. 25 ans agent correctionnel au pénitencier de Donnacona et maintenant... comment je pourrais dire ça? Délateur de ce qui s'est passé.
Délateur de l'information, Boulevard Sandrin.
Merci, Audrey, aussi.
Salut.
C'est un plaisir de travailler avec toi à chaque fois. Et on se retrouve dans un instant dans le Point de Max à Boulevard 102.1.
Le Point de Max.
Le Point de Max à Boulevard 102.1. On est sur la fin de cette émission-là. Et mon Dieu, on a eu du beau monde qui est passé, ça. Je peux vous le dire, Victor Henriquez, analyste politique, qui était là en début d'émission pour parler de l'élection partielle qui a été remportée par le Parti québécois, mais aussi la grande victoire. Je mets entre parenthèses d'Éric Duhaime, parce qu'il est bien content d'avoir terminé en deuxième position du côté de Chicoutimi. Pour lui, c'est comme un vent de... On a peut-être notre chance parce que la CAQ et les libéraux croulent. Est-ce qu'on sera une option pour beaucoup parce qu'il y en a plein qui veulent pas de référendum à suivre. Mais chose certaine, il s'est levé avec tout un sourire. Donald Trump qui a prononcé ou qui a mis à l'épreuve encore plus l'économie américaine et l'économie mondiale. Après qu'on lui ait dit « Mais non, t'as pas le droit de faire ça du côté de la Cour suprême récemment. Hein. » Vous savez, on avait fêté la fin de la collecte des tarifs qui était invalidée par la Cour suprême. Mais aujourd'hui, Trump étant Trump, c'est officiellement la nouvelle surtaxe de 10 à 15 % qui est en vigueur. Également ce soir, à surveiller pour Trump son discours sur l'état de l'Union. Mais il y a d'autres petites choses qui sont dans l'actualité et Mathias est là avec nous pour en parler. Mathias Turcotte, entre autres, triste anniversaire, c'est 4 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine que l'on festoie, que l'on souligne, je préfère dire, moi, personnellement, aujourd'hui. Et ça vient avec des annonces du côté de Mark Carney.
Oui, le premier ministre canadien qui a annoncé bonifier son aide militaire pour l'Ukraine. On rajoute 300 millions supplémentaires à l'aide qui était déjà présente pour 2026-2027. On parlait d'1,75 milliard d'aide financière à l'Ukraine qui était déjà budgétée. En rajoutant 300 millions, on vient à être autour de 2 milliards de dollars en aide militaire pour l'Ukraine. À ça, on rajoute également des dons de plus de 400 véhicules blindés, 66 blindés DG-6S. Donc, on donne beaucoup d'armement militaire également. De même coup, on prolonge de 3 ans la mission d'entraînement des soldats ukrainiens, la mission qu'on a nommée unifiée.
Ça veut dire que c'est des soldats de l'armée canadienne qui restent encore plus longtemps sur le territoire ukrainien. Et au Salon de l'Auto, il y a 2 ans, Marceau et moi, on était là en personne, puis il y avait l'armée, tu sais, tout le temps comme des instances d'autorité qui sont là aussi, puis ils présentent leurs tanks, les choses comme ça, qui nous expliquaient qu'ils partent à relais. Fait que c'est vraiment des équipes depuis avant même l'invasion qui sont dans le coin de l'Ukraine pour entraîner les troupes, parce qu'on se doutait bien que ça pouvait... explosé malheureusement.
Tu en as parlé, Pascal, le Parti québécois qui a remporté, qui est retourné prendre contrôle d'un ancien château fort dans Chicoutimi. C'est avec 45% que Marie-Carline Laflamme devient la nouvelle députée de Chicoutimi. On s'en souvient, cette partielle-là qui arrive en raison de la démission d'André Laforêt en septembre dernier. Tu as souligné bonne performance du Parti conservateur à 26%. La CAQ seulement 12%. On avait eu 62% en 2022. C'est une baisse très considérable pour la CAQ. Le Parti libéral qui a quand même triplé également son pourcentage, 9% au lieu de 3% en 2022, ce qui est à noter également.
C'est la 4e partielle qui est remportée par le Parti québécois depuis 2022, après Jean Talon, Terrebonne, Arthabasca, maintenant Chicoutimi.
L'aspirante chef caquiste, Christine Fréchette, s'est engagée dans le cadre de la course à la chefferie vers la CAQ à garder le financement pour les sorties scolaires. Donc, c'était sorti la semaine dernière. Le milieu culturel s'était enflammé. On prévoyait faire des coupes dans le budget destiné aux sorties scolaires, aux sorties culturelles scolaires dans les différents centres de services scolaires à travers le Québec. On parlait de 13 millions de coupures déjà pour l'année 2026-2027. Puis, on le recoupait de moitié l'année suivante. Christine Fréchette qui a dit que c'était de l'argent nécessaire pour le développement de nos enfants. Alexandre Boulris, député néo-démocrate présentement, a commenté aujourd'hui la possibilité de se présenter pour Québec solidaire. La rumeur qui est sortie la semaine dernière par rapport à une potentielle candidature dans la circonscription de Gouin pour l'Homme. Aujourd'hui, il a souligné que c'était pas la première fois que Québec solidaire l'approchait pour parler de cette option-là, mais que cette fois-ci, c'est sûr qu'il envisageait plus sérieusement qu'il ne l'avait jamais envisagé. Je vous rappelle que les...
en gros, il y a eu des discussions,
ouais, c'est ça. Ouais, puis il est très... Non, mais il est très... Il faut souligner quand même que les délégués au Conseil national de Québec solidaire ont voté une exception parce que eux, présentement, les sièges qui leur appartiennent, il y avait une règle qui stipulait que c'était seulement des femmes ou des personnes non-binaires qui pourraient se présenter dans ces sièges-là. Puis la circonscription de Gouin en fait partie. Ils ont dû donc voter une exception à la règle précisément pour la circonscription de Gouin la semaine dernière. Puis on en doute fortement que c'est pour Alexandre Boulris que cette règle-là a été votée.
Il y a peu de hasard.
Ça semble vraiment pas être un hasard, mettons. Le RTC affirme avoir besoin de plus d'argent. Combien ça, on ne sait pas. C'est pas chiffré par rapport aux demandes. En gros, c'est le budget du Québec qui approche peu à peu, puis différentes organisations, institutions font des mémoires au gouvernement du Québec pour demander des ressources financières davantage. Le RTC n'a pas fait de mémoire à part entière par lui-même. Par contre, il s'est joint à l'Association du transport urbain du Québec qui fait certaines demandes prébudgétaires, surtout d'avoir un financement plus prévisible, suffisant dans le but de maintenir leurs installations et de les améliorer convenablement. Je termine avec un sondage qui a été commandé par le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Ce sondage-là, l'objectif de ça, c'est de voir comment les jeunes professionnels utilisaient l'intelligence artificielle.
Tellement intéressant que ça a été commandé par l'Association des jeunes chambres de commerce. De la jeune chambre de commerce,
ouais,
ou de la chambre de commerce?
Regroupement des jeunes chambres de commerce.
OK, c'est des jeunes qui ont dit « Ah, ça fait partie de notre quotidien maintenant. Allons voir à quel point on l'utilise. »
Exact.
Ça.
Donc, c'est 18 à 35 ans qui ont été sondés, qui travaillent à temps plein, bien sûr. 70% des jeunes professionnels utilisent l'intelligence artificielle dans le cadre de leur emploi.
70, c'est énorme.
Donc, c'est énorme, mais...
Mais on compte quoi là-dedans? Pas juste ChatGPT?
Toute intelligence artificielle. Quelqu'un qui utilise Google puis qui a une intelligence artificielle Google, je pense pas qu'il a répondu oui dans le sondage, mais mettons Gemini, ChatGPT, tout ce qui est intelligence artificielle. Également, 19% affirment l'utiliser à tous les jours. Donc, présentement, un jeune professionnel sur 5 dit « Moi, chaque jour, je prends l'intelligence artificielle pour accomplir mon travail. » Puis c'est 28% qui l'utilisent plusieurs fois par semaine. Donc, on parle de presque la moitié de ces jeunes-là qui l'utilisent à plusieurs reprises durant la semaine. Il y a deux utilisations principales par rapport à ça. La première, c'est chercher de l'information. Bien sûr, c'est très efficace. Parfois, il faut aller contre-vérifier, bien sûr, là. Mais c'est beaucoup plus rapide qu'une simple recherche sur le web. Également, la rédaction ou encore la correction de texte. Donc, c'est vraiment les deux façons que c'est le plus utilisé. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes professionnels, à 66%, donc 2 sur 3, disent qu'il n'y a aucun encadrement ou uniquement informel par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de leur travail.
Fait que les patrons ne regardent pas si, comme mettons, des enseignants pourraient faire si leurs employés l'ont utilisé et si c'est conforme à la façon dont ils veulent paraître avec leurs clients, par exemple, ou auprès des autres. Puis le clin d'œil que je vais faire, c'est le fameux jingle ou encore l'utilisation d'une photo d'autoroute qui n'est pas de Québec dans la campagne de sa mamade. Probablement qu'on a pas les yeux. Oui, c'est ça, puis ça leur a fait mal. Mais ça pourrait se traduire aussi au sein d'une entreprise. Moi, je pense que je suis un peu ma tante sur ces affaires-là.
Ouais.
Au niveau de l'intelligence artificielle, puis je surveillerais beaucoup de quoi on paraît, de quoi on aurait l'air, parce que des fois, être trop guindé aussi dans le commentaire ou dans la rédaction de texte, ça crée une distance.
Ben, c'est ça que j'allais dire. Une rédaction complète de texte, là, ça se lit, ça se voit que c'est de l'intelligence artificielle. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est pas l'idéal. Par contre, que des jeunes professionnels disent « Je suis plus productif comme ça, je vais l'utiliser. »
Dans la rédaction de courriel, là, très honnêtement, moi, j'ai vu en plus Apple CME. Fait qu'ils ont créé un genre de chat GPT sur les nouveaux Mac dans leur logiciel de courriel, là. C'est efficace, mon gars. C'est incroyable. Moi, je ne l'utilise pas parce que mon Mac a planté. Ça faisait 10 ans que je l'avais, puis ça a l'air qu'après 10 ans, ça se peut que lui, il dise « Moi, ça ne me tente plus. » C'est ce qui est arrivé. Mais en magasinant les prochains, je vois ça. Là. Je vois à quel point toute compagnie essaie aussi de le mettre pour les professionnels qui vont utiliser leurs produits.
Bien, ça devient un outil très intéressant. Puis c'est justement là que le questionnement s'emmène. 2 sur 3 disent « c'est pas du tout encadré
».
Les employeurs, peu à peu, selon moi, parce qu'à l'école, ça l'est de plus en plus, va falloir qu'il y ait certains questionnements chez beaucoup d'employeurs qui se mettent en place. Comment que je veux que mes employés l'utilisent, puis à quelle fréquence que j'aimerais qu'ils l'utilisent également?
Oui, parce qu'après, tu veux employer quelqu'un pour sa crédibilité, pour ses compétences, parce qu'elles sont cachées ou encore elles ne sont pas nécessairement vraies quand ils n'ont pas l'outil de l'intelligence artificielle. C'est un grand questionnement. Mathias, on revient ensemble dans un instant. On va parler d'une invitation qui a été refusée. Donald Trump qui a invité une équipe sportive féminine à venir du côté de Washington, du côté de la Maison-Blanche. On a dit non, merci, merci, mais non, merci. Ouh, ça doit pas le rendre très heureux. On revient dans un instant, mais je veux vous dire que du 5 au 7 mars, en pleine relâche, vous allez pouvoir assister à un spectacle acrobatique. Et ça, c'est du côté du Théâtre Le Diamant. C'est pour la jeunesse, fait qu'ajoutez ça à votre agenda si vous cherchez des activités. On va envoyer les grands-parents, les tantes, les parrains, les marraines avec les enfants. Un super tarif pour les 20 ans et moins, c'est de 20 $ si vous êtes accompagné d'un adulte. L'enfant, si votre enfant, là, en fait, fasciné par l'espace, c'est le spectacle pour lui. C'est 12 artistes, 44 chaises qui bougent, sautent, jonglent avec la lumière, la matière. On passe à travers 1000 façons, un mélange de poésie, d'acrobatie, de magie. C'est vraiment surprenant puis c'est fascinant comme spectacle. Je vous jure, allez jeter un coup d'œil au lediamant.ca. C'est à ne pas manquer. Et en passant, rendez-vous sur le BLVD section concours pour gagner 4 billets pour la représentation du jeudi 5 mars, 19h30. Pourquoi pas? Quelque chose qui coûte rien, c'est aussi le fun. Le point Max. Mathias, on voulait en parler. Donald Trump s'est vu refuser l'une de ses invitations. Il voulait probablement faire rayonner une équipe féminine qui s'est affichée du côté des Jeux olympiques 2026. Et c'est l'équipe féminine américaine de hockey. Mais l'équipe a dit non, merci. Merci, mais non, merci.
Ouais, ben t'en as parlé. Puis c'est ce soir, justement, que l'équipe masculine, l'équipe américaine, se rend à la Maison-Blanche pour fêter leur victoire de cette fameuse médaille d'or-là. Eux, ils ont accepté. Mais lors de l'appel de Donald Trump pour annoncer aux joueurs qui étaient invités mardi soir, Donald Trump a dit une phrase qui a fait beaucoup réagir. Il a dit la phrase suivante, que s'il n'invitait pas aussi l'équipe féminine à venir fêter la victoire, il serait destitué.
On entend que peut-être quelqu'un l'a obligé.
Ben,
puis en plus, ça a été refusé.
La problématique, t'es là, c'est probablement une blague, mais cette blague-là sous-entend un peu que si c'était de mon choix, je n'inviterais pas l'équipe féminine. Fait que forcément.
Et c'était pas nécessaire. On s'entend?
C'était pas nécessaire.
Il y a quelqu'un qui avait déjà dit que derrière toute blague, il y a un fond de vérité. Pour Donald Trump, habituellement, c'est une citation, c'est une façon de voir les choses qui fonctionne.
Oui, oui. Puis du côté d'équipe féminine, on a refusé l'invitation. On dit que c'est en raison de conflits d'horaires et que les filles ont de grosses horaires quand même. Mais en 100 ans, on regarde cette situation-là, puis c'est dur de dire, encore une fois, c'est juste un hasard. Selon moi, il y a quand même cette phrase-là, l'attitude de Donald Trump. Puis aussi, il faut prendre en compte, aux États-Unis, Donald Trump est beaucoup moins aimé chez les femmes que chez les hommes actuellement.
Il l'a cherché un petit peu, par exemple.
Ben oui, fait que peut-être aussi
qu'il
y a plusieurs membres de l'équipe féminine qui sont tout simplement pas intéressés à aller rejoindre Donald Trump à la Maison-Blanche.
Parfois aussi, il y a des gens qui ne veulent pas s'afficher du côté politique quand c'est sportif. Puis les Jeux olympiques le demandent aussi. Hein. Tu te rappelles de cet athlète-là qui voulait absolument porter les couleurs de ses frères d'armes qui sont décédés du côté de l'Ukraine, puis que malheureusement, il n'a pas écouté le comité des Jeux olympiques. Puis eux leur avaient dit, tu peux faire ça en pratique, mais pas lors de la compétition finale aux Jeux olympiques. Il a décidé que lui, il n'allait pas rebrousser chemin sur sa décision. Puis on lui a dit, tu ne pourras pas compétitionner. Les Jeux olympiques ont souvent été protégés au niveau politique parce qu'on a vu à travers les guerres mondiales et tout ça des pays se déchirer, s'entre-déchirer et utiliser les Jeux olympiques pour rendre des comptes. On l'a senti un peu avec la coupe de hockey là, qu'on a disputée l'en fin de semaine dernière. Il y avait quelque chose de plus que juste sportif. Il y a eu des échanges de tweets. Hein? Justin Trudeau qui dit « Vous ne pouvez pas prendre notre pays, vous ne pouvez pas prendre notre sport. » Donald Trump a repris ça. Il a collé ça sur une image où on voit un aigle complètement mettre à terre une bernache. Là. Donc, c'était loin d'être seulement sportif à ce niveau-là.
Trump qui fait du Donald Trump au
oui.
final.
Oui, puis je pense que c'est peut-être ça aussi du côté de l'équipe féminine. On ne veut pas mêler les deux.
Une chose est sûre, c'est que l'équipe masculine s'y rend ce soir. D'ailleurs, le hockey de la Ligue nationale qui reprend demain soir. Pour le Canadien, ça se passe seulement jeudi soir à 19h face aux Islanders. Je termine avec une dernière nouvelle de sport. Le combat du siècle du côté de la boxe qui va avoir une partie 2. C'est Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, deux légendes de la boxe qui s'étaient affrontés en mai 2015. Floyd Mayweather était sorti gagnant de ce combat-là. Eh bien, ils se réaffronteront. Oui, oui, vous vous dites, ils sont vieux en maudit. Effectivement, Floyd Mayweather, pour un combat de boxe, Floyd Mayweather, c'est 49 ans. Manny Pacquiao, c'est 47 ans. Eh bien, on y va pour une prise 2 le 19 septembre prochain du côté de Las Vegas. Tout va être diffusé sur Netflix.
En temps réel?
En temps réel.
En live.
Exact.
OK. Merci, Mathias Turcotte.
Ça fait plaisir.
On se retrouve prochainement en ondes, sinon dans les corridors dans quelques instants, parce que c'est la fin du Point de Max. Je remplaçais Maxime, mon nom est Pascal, et c'est le temps de vous inviter ce soir aussi en ondes, tous les lundis 19h pour 5 semaines. Ce sont des podcasts qui ont été travaillés là, de main de maître, et le podcast hors série pour cette semaine, c'est un peu là où l'espace des animateurs de Boulevard 102.1 prend tout son sens, parce qu'ils peuvent y aller avec ce qu'ils ont envie de faire, et Denis a décidé de diffuser un épisode qui est sur 50 ans de l'album « Wish You Were Here » de Pink Floyd hier. Donc, c'était très intéressant. Pièce par pièce, grand fan de Pink Floyd, en passant à Denis, il a raconté avec vraiment toute sa passion l'histoire de l'album mythique. Merci à Chaloux qui nous permet de faire ça. Si vous avez manqué le podcast, reprenez ça sur le site de blvd.fm ou encore sur la chaîne YouTube. Et on vous attend avec bien d'autres surprises pour la suite parce que, vous le savez, le podcast sur les entrepreneurs revient des entrepreneurs d'ici avec Joanie Fortin. Et c'est un plaisir de vous les offrir à Boulevard 102.1, les lundi 19h. Salut, on se retrouve dans On en jase avec Jeff Fortin dans un instant.
Restez là, dans quelques instants.